100% parler tout l'été. Ça commence ce soir. Début du FEC avec Limp Bizkit. Une minute, bienvenue dans le Point de Max à Boulevard 102.1. On s'installe ensemble pour les deux prochaines heures. Avant que j'aille m'installer dans le coin de Grande Allée, parce que j'ai un show moi à soir, un pré-show Limp Bizkit pendant une heure, de 18h à 19h en direct. Des trois brasseurs viendraient me dire un petit bonjour sur la terrasse, ça va me faire plaisir. On vous présente les grosses tunes de Limp Bizkit pour que dans votre char ou dans l'autobus avec l'application, peu importe la façon, là, vous puissiez vous mettre dedans en vue du show. Donc de 18h à 19h, le meilleur de Limp Bizkit. Peut-être une ou deux tunes aussi de Cypress Hill qui va assurer la première partie. D'ailleurs, je vais jaser avec, j'allais dire les gars de Cypress Hill. Je sais pas si ça va être juste un des gars ou s'ils vont tout être là. Mais j'ai une entrevue prévue avec Cypress Hill aux alentours de 17h. Donc je pourrais vous présenter des extraits de ça. Mathias, là, c'est pas encore, là, mais il va nous découper ça gentiment.
Ah, c'est moi qui va m'occuper de ça?
Je vais juste t'en faire découper.
OK.
Moi, it's Matt. Salut Mathias Turcotte.
Bonjour.
As-tu hâte au Festival d'été de Québec
qui
commence ce
soir? Bien sûr que j'ai hâte. Puis à soir, ça va être toute une soirée. Ça va brasser en maudit. Je sais pas si je vais être le seul ici présent ou certains de nos auditeurs vont être avec moi en avant d'un mosh pit. Mais moi, je m'en vais me faire brasser à soir.
Moi, je suis rendu... Hey, puis fut un temps où, moi, les mosh pits, là, c'était tout le temps, là. À fond, puis du début à la fin du show, puis on dirait que ça me tente plus, là. Puis, tu sais, je niaise que je suis rendu trop vieux pour ça, là. J'ai 25 ans. Tu sais, même hier, j'étais allé voir Silverstein, puis je veux vous en reparler parce que ça a encore une fois été tout un show de Silverstein, mais il y avait amené un beau circle pit, là. Normalement, là, j'aurais sauté là-dedans, mais là, on dirait que j'ai vieilli, Mathias.
T'es plus le même.
Non, je sais,
Qu'est-ce qui se passe avec l'ancien Maxime Larouche? Là, il y a de cela une semaine, tu me parlais d'arrêter le karaoké une fois par mois pour aller manger un bon steak dans un steakhouse à la place.
C'est vrai.
Là, maintenant, tu me parles du fait que tu veux plus aller dans les mosh pits. Qu'est-ce qui se passe, Max?
Je sais pas. On vieillit, hein? On vieillit.
T'es en train de gagner de la sagesse.
25 ans, un quart de siècle quand même. On s'installe donc pour le Point de Max jusqu'à midi. 88-971-101, le numéro pour nous rejoindre en studio par texto. Je vous invite à le faire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Vous pouvez nous écouter sur le blvd.fm, l'application mobile Boulevard 102.1 également, les ondes FM, le bon vieux classique pour les vieux de la vieille, et pour les plus technologiques d'entre vous, vos haut-parleurs intelligents à la maison peuvent aussi vous permettre de nous écrire. Avant de reparler un petit peu du festival d'été et de se mettre l'eau à la bouche en vue de ce qui nous attend dans la prochaine semaine et demie, moi j'avais comme un petit warm-up de festival d'été de Québec hier. Ça se passait à l'Agora du Port de Québec avec un de mes bands préférés à voir en show. Les gars sont tellement têtes, sont tellement solides. Le chanteur Shane ne me déçoit jamais. Puis, quand tes attentes sont au top, ça se peut que tu sortes de là déçu. Tu sais, je dois avoir vu Silverstein maintenant 5-6 fois en show, puis on dirait qu'à chaque fois, je sors de là, puis ça a répondu à mes attentes, même si ça les a... puis peut-être des fois même dépassé. Puis, j'ai pas beaucoup utilisé mon cellulaire hier durant le show, je voulais vraiment profiter. Je l'ai sorti une fois ou deux pendant Silverstein, puis une de ces fois-là, j'ai capté un moment... pendant ma tune préférée, My Heroine, je pense que j'ai écouté cette vidéo-là. Elle dure 43 secondes, je dois l'avoir écouté 20 fois depuis hier. Là, je fais entendre ce que ça a donné. La foule qui chante, tout est parfait de cette vidéo-là. Silverstein hier à l'Agora. We'll be right back. Est-ce qu'il y en a qui étaient là hier à Silverstein, à l'Agora, soirée 1-2-3 Punk du Chum Rage avec Carl Emmanuel aussi impliqué là-dedans, la gang d'Exo, 88-971-101, comment vous avez trouvé le show? C'est quasiment un mini-festival, il y avait 5 bands hier, ça a commencé à 5h45, vraiment une maudite belle soirée, en majorité au soleil à part de ça, ça a vraiment mis la table, puis ça m'a donné faim. Pour le Festival d'été de Québec. Là, je veux voir des shows chaque jour pendant une semaine et demie.
Ben là, tu vois, juste ce fait d'entendre ta vidéo avec la foule qui chante ensemble, ça m'a donné le goût. J'étais comme pas encore rentré dedans, là, mais juste de m'imaginer sur les plaines, ces moments-là où la foule embarque, parfois avec ses lumières à grandeur des plaines, c'est des moments tellement fantastiques, là. Puis c'est ça qu'on s'en va vivre au cours des prochains jours.
Quelqu'un m'écrit 88-971-101, t'avais raison, Sudden Waves, vraiment excellent. J'avais dit, ceux qui vont être là à l'Agora, soyez là de bonne heure, puis arrangez-vous pour pogner Sudden Waves, vous allez pogner de quoi. Fait que content de voir que Sudden Waves a gagné un fan. Puis l'autre band, c'est Peer Pressure. C'est une fille qui chante, puis tu sais, c'est du scream, là. C'est du vrai de vrai, ça brasse. La chanteuse est sensationnelle, la présence sur scène.
T'es-tu tombé en amour?
Non, même pas.
Non.
Je tombe en amour avec le band, je tombe en amour avec la musique que j'avais déjà vue. En fait, j'étais déjà en amour un peu avec ce band-là, c'est juste que là, je les ai retrouvés après ne pas les avoir vus pendant une couple de mois. Mais sont vraiment solides. Fait que non, toute une soirée hier à l'Agora du Port de Québec. Et ce soir, ben, ça part avec Limp Bizkit du côté du festival d'été. Tu sais, Break Stuff, c'est comme le classique qu'on a toujours envie d'écouter puis de faire jouer, mais il y en a d'autres. Rollin', Take a Look Around. Bien sûr, My Way. Dans les classiques, Nookie aussi. Et dans le plus mollo, ben on a Behind Blue Eyes. As my conscience seems to be,
ce que je te parlais tout à l'heure, là, le fameux moment où tout le monde chante avec les lumières sur les plaines, j'ai l'impression que durant Behind Blue Eyes, on va vivre ce moment-là.
Je pense que oui, en première partie. Nul autre que Cypress Hill. Avec des hits comme Insane in the Brain ainsi que Hits from the Bong. Et ma préférée. Rock Superstar. On va donner un petit coup à la machine. Et comme je vous dis en ouverture, j'aurai la chance de jaser avec au moins un gars de Cypress Hill. Je pourrais vous présenter un ou deux extraits dans notre show spécial pré-show Limp Bizkit de 18h à 19h. 418-971-1011, Louis qui dit « Arrête, j'ai prêté mes passes pour ce soir. Essaye de t'en trouver d'autres, mon Louis, parce que d'après moi, tu vas regretter à nous entendre parler du show demain. »
Ouais, parce que c'est sûr qu'on va en parler.
Mais oui.
T'as-tu préparé ton anglais pour l'entrevue de ce soir, Max?
Deux bières. C'est vrai, hein, moi,
c'est aussi simple que ça.
Moi, une bière, je suis encore pas capable de dire un mot en anglais. Deux bières,
ben, bilingue. Parfaitement bilingue.
Pas plus que ça, par exemple.
C'est une solution miracle.
C'est deux.
T'aurais dû conseiller ça à Michael Rousseau, ancien PDG d'Air Canada. Ça aurait peut-être fait la même chose, mais en français.
Peut-être qu'il se serait mis à parler en français. Gros show aujourd'hui, inquiétez-vous pas, on va pas rien que parler du fait que tout au long du show, là, c'est sûr qu'on est des tripeux de musique, puis on va en parler du fait que dans les 10 prochains jours, là, c'est sûr et certain. Mais on continue de suivre l'actualité aussi. Bon, on va en parler dans à peu près une heure quand même du fait, mais l'aspect économie, l'aspect restauration de tout ça, avec Éric de Monchot, qui est franchisé propriétaire des Trois Brasseurs de Québec, pour parler des retombées du Festival d'été de Québec pour les restos. Benoît Thérien, président de Truck Stop Québec, sera avec nous aussi sur les nouvelles mesures du Québec pour faire face au phénomène des chauffeurs à rabais. C'est-tu quelque chose qui va donner des résultats ou c'est une annonce politique pour donner l'impression qu'on fait quelque chose, mais au final, on ne sait pas à quel point ça va aider. On pourra poser la question à Benoît Thérien. On va discuter aussi dans les prochaines minutes avec Marc Ranger, expert en relations syndicales. On va parler d'Hydro-Québec, qui accuse deux de ses syndicats de la diffamer et aussi de syndiquer dans un entrepôt de Walmart, ce qui est une première en Amérique du Nord. Mais avant tout ça, Mathias, comme le veut la tradition, on va faire un petit tour des nouvelles.
Une enquête pour homicide est en cours à Jonquière à la suite de la mort d'une personne hier soir. Des policiers qui sont intervenus vers 17h hier près du quartier étudiant en lien avec des voies de fait armées. Le suspect qui s'est initialement barricadé a finalement été maîtrisé et arrêté vers 21h30. En plus de la personne retrouvée morte, un blessé a aussi été transporté à l'hôpital. Le gouvernement du Québec annonce aujourd'hui de nouvelles mesures pour encadrer davantage les fameux chauffeurs à rabais. À partir de maintenant, tout conducteur de poids lourd ontarien qui possède moins de 2 ans d'expérience et qui souhaite s'établir au Québec devra passer un examen pratique pour se procurer un permis auprès de la SAAC. S'il échoue deux fois cet examen pratique-là, le conducteur devra suivre la formation habituelle, la formation normale pour obtenir un permis de classe 1 au Québec parce qu'il y a une forte proportion des entreprises de camionnage en Ontario qui ont recours au modèle des chauffeurs au rabais, Chauffeur Inc. qui fait beaucoup de bruit au cours des derniers mois parce qu'il y a certains chauffeurs qu'on juge avec une formation pas nécessairement adéquates et qui sont donc pas assez qualifiés, qui se retrouvent avec un poids lourd entre leurs mains, ce qui peut créer par moment des accidents. Le Parti libéral du Québec annonce ce matin la candidature de Gertrude Bourdon, l'ancienne grande patronne du CHU de Québec, comme candidate dans Jean Lesage. Elle a aussi été candidate pour les libéraux dans Jean Lesage en 2018 et dans Jean Talon en 2019. Jean Talon qui est présentement représenté par Sozanetti et selon les projections de QC125, les libéraux qui se retrouvent à la 4e place. J'en profite pour vous souligner que le Parti libéral du Québec présentera aussi leur candidat dans Lévis cet après-midi.
Dans le cas de la nouvelle candidate, là, non seulement le Parti libéral est en 4e place, mais tu sais, 4e place, tu peux quand même des fois être serré avec les autres. Puis, tu sais, là, c'est une course à deux vraiment entre Québec solidaire et le PQ à 31 et 29. T'as les conservateurs à 16, fait que tu sais, même pour les conservateurs, ça va être très tough. T'as les libéraux à 12, puis la CAQ à 11. Fait que tu sais, on se lance du côté des libéraux là-dedans avec à un point de la dernière place parmi les partis principaux. Ce sera pas facile. Je sais pas si on a promis un poste à madame dans l'éventualité où le Parti libéral finissait par former un gouvernement. Des fois, c'est quelque chose qu'on voit en politique parce que clairement, elle ne sera pas élue là, dans Jean Lesage.
Puis c'est une candidature intéressante, Gertrude Bourdon, et c'est pas la première fois qu'on voit le Parti libéral du Québec mettre une candidature, entre guillemets, vedette, ou une bonne candidature dans un comté, dans une circonscription où il semble avoir de faibles chances de l'emporter. Une première entreprise a confirmé avoir prévu répondre à l'appel d'intérêt pour le troisième lien à l'Est lancé par le gouvernement du Québec, nous apprend le Soleil ce matin. C'est l'entreprise de construction EBC qui est située à l'ancienne Lorette qui prévoit lever la main. C'est un acteur déjà bien présent dans plusieurs projets de transport de la capitale nationale. Ils font notamment partie du consortium du pont de l'île d'Orléans et participent aux travaux Tramcité. Je vous fais un petit rappel concernant le transport qui va changer durant le Festival d'été de Québec. Des navettes qui vont être disponibles à partir de différents stationnements à travers la ville pour se diriger vers justement le Festival d'été de Québec à partir de ce soir justement. Pour toute la durée du festival, notamment sur le Bourgneuf, stationnement Hydro-Québec, Charlebourg, stationnement 41e Henri Bourassa, Beauport, stationnement Promenade Beauport et Sainte-Foy, stationnement du Centre-Glace Intact Assurance. Donc des départs de 4 navettes entre 17h30 et 20h30 tous les 10 minutes si jamais vous voulez y aller en transport en commun. Je vous rappelle pour les automobilistes, ceux qui prévoient y aller en voiture, Grande Allée en direction Est sera fermée à la circulation à partir de l'avenue Hollande. Ça, c'est nouveau de cette année. On va réserver les deux voies de circulation aux cyclistes et aux autobus. Donc, vous êtes priés de vous déplacer vers René Lévesque pour accéder au centre-ville. Le conflit est repris de plus belle du côté de l'Iran, alors que les États-Unis ont multiplié les attaques sur des cibles dites militaires, tandis que l'Iran accuse les Américains de vouloir s'en prendre aux funérailles de Khamenei prévues aujourd'hui. Ça recommence à brasser. Le président américain Donald Trump qui avait annoncé hier mettre fin à ce fameux cessez-le-feu-là. Donc, ça risque d'augmenter au cours des prochains jours. Bien sûr, le détroit d'Ormuz va être à surveiller. Est-ce que l'Iran prévoit de refermer? C'est dur à dire pour l'instant. Je termine en vous signalant la mort de la chanteuse britannique Bonnie Tyler, une star des années 1980, connue pour plusieurs classiques de la pop de ces années-là, qui est décédé à l'âge de 75 ans après une opération d'urgence en mai au Portugal.
Et ce matin, on avait un choc de génération parce que pour Marceau, c'était ses premiers slow. C'est ce que représente cette chanson-là de Bonnie Tyler. Pour moi, cette toune-là, c'est surtout Stranger Things.
Oui.
Fait qu'on voit vraiment là, les différentes générations. À la météo, c'est pour la prochaine semaine au complet, ça va être quasiment du soleil tous les jours avec des températures entre, mettons, 25 et 30 degrés. Quasiment pas de nuages, ça va être beau. À part aujourd'hui, où là, pas mal toute la journée, on nous parle d'un genre de 60% de possibilité d'averse jusqu'à 17h. Puis après ça, c'est un 40% pour le reste de la soirée. C'est pas supposé être de super grande quantité, là. Fait qu'on devrait quand même bien s'en sortir. Puis tu sais, avec un ressenti, tu sais, encore ce soir à 23h, là, le ressenti va être de 26. Puis qu'on s'entend que même s'il mouille un petit peu, on va être bien au chaud de Limp Bizkit. Matière circulation.
Oui, je vous fais un petit tour rapide. Là, juste vous rappeler dans le secteur de Charest-Est, entre la rue de la Couronne et le boulevard Jean-Lesage. C'est rouvert à la circulation parce que pendant une période, hier après-midi, c'était complètement fermé. Mais c'est une seule voie dans chaque côté au lieu de deux. Je vous fais un petit tour aussi des ralentissements en raison des travaux 20 direction ouest entre Taniata et Chemin des Îles. C'est difficile. Henri IV, direction sud. À hauteur de Charest, un peu de ralentissement. Vous signalez aussi, là, Lévis, vous êtes un peu dans le bordel là, si vous voulez vous diriger vers Québec, parce que Guillaume Couture, depuis le début de la semaine, hauteur chemin du fleuve en direction ouest, c'est très difficile aussi.
Hydro-Québec accuse deux de ses syndicats de la diffamer. On en parle au retour avec Marc Ranger. Le point de match. 10h24 minutes dans le point de max. On est ensemble jusqu'à midi. Et oui, on va parler là, de temps en temps du Festival d'été de Québec qui commence ce soir, évidemment, mais on laisse pas tomber non plus l'actualité. Et c'est pour cette raison-là qu'on va aller rejoindre immédiatement via Zoom l'ami Marc Ranger, expert en relations syndicales. Salut Marc!
Salut Max, salut à vous deux.
Il y a deux nouvelles particulièrement qui ont retenu mon attention ce matin dans le beau monde syndical. Une davantage, c'est le Journal de Québec qui nous apprend qu'Hydro-Québec poursuit deux de ses syndicats, les accuse de porter atteinte à sa réputation. Ce qu'on met en cause, c'est une campagne de publicité. Est-ce que tu as vu ça souvent?
Non, j'ai pas vu ça souvent. C'est d'ailleurs, ça doit être ma première remarque, là. C'est vraiment très rare qu'on voit un employeur qui va poursuivre le syndicat puis prétendre qu'il y a eu diffamation. Puis d'autant plus dans le secteur public, là, moi, je me souviens pas. Tu sais, si, il peut y avoir eu dans le passé des actes de vandalisme, puis là, l'employeur prend des procédures. Mais par rapport à une campagne de publicité, j'ai pas souvenir d'un employeur du secteur public ou une société d'État qui est amorcé une poursuite comme celle-là.
Puis là, dans la publicité, c'est le syndicat des employés de métier et le syndicat des technologues qui affirmaient que la direction d'Hydro est déconnectée et que c'est une vraie joke. Il y a aussi une histoire là, de logo d'Hydro qui a été transformé un peu pour qu'on ça soit un genre de labyrinthe avec des fils électriques entremêlés. Me semble c'est pas si pire que ça. Ça vaut-tu vraiment une poursuite en diffamation?
Écoute, on l'a tous vu, cette publicité-là, parce qu'elle a joué partout. Elle a joué de façon intensive aussi pendant les séries éliminatoires. Puis, tu sais, moi, je connais très bien les deux présidents de syndicats. Dans mon ancienne vie, j'étais responsable comme directeur québécois du SCP des syndicats d'Hydro-Québec. Donc, je les connais bien. Puis, quand j'ai vu la publicité, moi, je t'avoue une chose, là, c'est que l'expression « la direction d'Hydro, c'est une vraie joke », là. Tu sais, si j'avais été encore en poste, je leur aurais dit « tu négocies avec ce monde-là, peut-être qu'il faut se garder un petit peu de gêne. » Tu comprends, là? Le reste, moi, je trouvais, tu sais, le labyrinthe, le message qui est passé, c'est tout à fait de bonne guerre. Puis oui, je trouve que Hydro-Québec a la mèche courte. Je pense qu'on a été très irrités de l'intensité de la campagne à des moments clés, que tout le monde l'a vu, puis que ça attaquait directement la gestion, la direction d'Hydro-Québec. Mais, tu sais, je te dirais bien franchement, là, j'ai vu que le SCP ne voulait pas commenter, mais moi, je te dirais, par respect pour la procédure judiciaire, mais moi, je peux commenter, là, et puis je suis là. Je pense pas que ça aille très loin. Dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'Hydro-Québec a peut-être voulu passer un message. Je veux dire, là, go, j'y vais avec la totale, une poursuite d'un demi-million. C'est pas rien quand même, là, tu sais, parce que, puis, bien franchement, d'accorder des dommages, faudra voir. Mais moi, je crois pas que ça aille très loin. Mais je pense que c'était beaucoup plus pour dire, arrêtez-moi ça, là, c'est assez. Puis, mais je pense que la direction d'Hydro-Québec doit se concentrer à négocier, là. C'est deux syndicats qui n'ont pas encore de contrat de travail. Tous les autres, à ma connaissance, sont réglés.
Marceau avait un point intéressant ce matin. Il disait, tu sais, oui, là, Hydro-Québec poursuit pour atteinte à la réputation, puis les dommages, tout ça. Moi, si je veux me départir des services d'Hydro-Québec, tu sais, il n'y a pas d'atteinte à la réputation. Tous les Québécois font affaire avec Hydro-Québec. Il ne peut pas avoir une vague de gens qui se déconnectent d'Hydro-Québec. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas de dommages, là.
Non, puis tu sais, le monsieur, madame, tout le monde qui regarde ça, là, ce qu'ils se disent, bon, ben, les partis, il y a une dispute, il y a une chicane à Hydro-Québec. C'est pas plus que ça, là. Est-ce que c'est parce qu'une publicité dit que la direction d'Hydro-Québec est déconnectée puis que c'est une vraie joke que la population va penser que c'est une gang d'incompétents? Non, absolument pas. Tu sais, je pense que Hydro-Québec a une bonne réputation. Puis d'ailleurs, les syndicats aussi, de façon normale, là, c'est des règlements dont on n'entend pas parler. Il y a très peu de conflits chez Hydro-Québec. Fait que moi, je pense pas que ça aille très, très loin. Mais Hydro voulait probablement sonner la fin de la récréation sur ce type de campagne-là. Mais malgré que c'est fini, là, c'est fait. C'est probablement une campagne qui est à peu près... Tu sais, c'est très intensif. Là, ça a dû coûter 1 250 000 à peu près, ce type de campagne-là. Mais c'est terminé, là.
Mais, donc, on en comprend que Hydro-Québec, au final, c'est un peu un moyen de pression qu'ils veulent faire. Comment on peut s'attendre que le syndicat réagisse? Est-ce qu'on peut s'attendre qu'ils réagissent d'une façon agressive avec une autre campagne publicitaire de ce type-là ou qu'on essaye d'être un peu plus tranquille?
Non, moi, si j'étais encore du côté syndical, je dirais c'est de bonne guerre. Puis on passe à un autre appel, on met nos énergies à négocier. Tu sais, c'est la période estivale actuellement. J'ai toujours dit que c'est une bonne période pour négocier. Ouais, moi, je prenais pas beaucoup de vacances l'été parce que c'est une période un peu plus tranquille et c'est le moment de mettre ses énergies pour négocier. Fait que je pense que les partis, c'est ce qu'ils doivent faire. Puis ça fait longtemps qu'ils sont en négociation. Puis je répète, tu sais, c'est avec deux syndicats. dont on a absolument besoin. Là, les ouvriers de Messier et les technologues chez Hydro-Québec, c'est eux autres qui sont au cœur du plan de développement des 10 prochaines années. Puis, évidemment, il y a des demandes parce qu'ils compétitionnent avec les métiers de la construction qui ont tout réglé, puis évidemment qui ont eu quand même des bonnes conditions de travail. Fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'Hydro-Québec trouve le moyen de s'entendre avec ces deux syndicats-là.
Marc, une question que je me pose souvent quand j'entends des pubs de syndicats à radio, quand j'en vois à TV, des fois je me demande, hey, ça sert-tu vraiment à quelque chose? Puis là, tu as mentionné le coût que peut avoir une campagne intensive comme ça. Ça peut être excessivement élevé. Là, quand tu vas être vu et entendu partout, c'est dans les centaines de milliers de dollars, voire dépasser les millions. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment un retour sur investissement pour les employés syndiqués là, qui voient des dépenses comme ça au-dessus de millions de dollars des fois pour des publicités? Il est où le retour sur l'investissement?
Mais ça dépend du type de campagne. Mais généralement, les membres vont apprécier ces campagnes-là parce qu'ils vont considérer que leur argent sert. Justement, il y a une visibilité. On parle de nos négociations. On sensibilise la population. Mais moi, je dirais que je préfère de loin les campagnes positives. J'ai eu récemment à conseiller un groupe, puis je leur ai dit, là, vous avez des idées pour améliorer le fonctionnement, faites-en une publicité. Dites, voici nous, on a des solutions, puis les voici. Les campagnes positives, ce que je trouve, c'est que souvent, puis j'exclus, là, je parle pas nécessairement de celle d'Hydro-Québec, mais je trouve que généralement, il y a souvent un ton négatif où on accuse la ville, on accuse de tous les maux avec un ton agressif. Ça marche pas, ça. Ça passe pas, ça. Et dans la population. Les gens préfèrent, on est à votre service, voici de quelle manière on est à votre service, voici comment on peut améliorer. Il y a des campagnes positives qui servent beaucoup plus. Pendant la pandémie, moi, on avait fait une grande campagne qui mettait en valeur les employés de la santé. C'était juste du positif. Pas parce qu'on était en négociation qu'on avait donné un ton négatif. C'était vraiment de mettre en valeur le travail des gens. Et ça, les membres aiment beaucoup ça parce qu'ils se disent, bon, ben, mes cotisations au moins servent à faire valoir pourquoi mon travail est utile. C'est là-dessus que ça marque plus de points que des campagnes négatives.
Si on revient sur la situation d'Hydro-Québec, mais plus largement, je veux dire, les situations d'Hydro-Québec, parce que il me semble qu'il y a beaucoup de syndicats chez Hydro-Québec pour chaque...
Oui.
Des fois, c'est par région, je pense, ou c'est vraiment chaque corps de métier différent. Comment ça fonctionne grossièrement?
Bon, il y a à peu près seulement 6 ou 7 syndicats Hydro-Québec.
Okay, c'est moins peu que je pensais.
Oui, oui. Les gens de métier ont leur syndicat, mais ils sont 6 500. Les spécialistes professionnels d'Hydro-Québec ont leur syndicat, mais eux autres sont un autre 5 500 à peu près. Puis là, ben, tu as les technologues 3 000, les employés de bureau. Puis là, les ingénieurs, évidemment, qui constituent une unité distincte là, chez Hydro-Québec. Là. Les ingénieurs qui sont, je pense, au-dessus de 2 000. Là. Fait que tu as 6 ou 7 syndicats, pas plus que ça, Hydro-Québec, dont les 6 sont syndiqués avec le même syndicat, le syndicat canadien de la fonction publique.
Il y a un autre dossier, en fait, 2 autres dossiers, Marc, dont je voulais te parler. Puis bon, t'as nommé ingénieur, fait que je vais y aller avec ça rapidement. Là.
Oui.
La grève des ingénieurs du gouvernement du Québec qui est en cours, puis hier, il devait avoir une annonce de Bernard Drainville, devait faire en fait son bilan comme député de Lévis. Puis là, on a annulé ça, dernière minute, puis on dit que c'est parce qu'il y avait une manifestation des ingénieurs, puis là, des raisons de sécurité. Là, le syndicat sort en disant ah, pas de bon sens, il n'y avait pas d'inquiétude à y avoir au niveau sécurité. Là, on voulait manifester dans le calme. Est-ce que ça, c'est une situation qui est particulière ou ça se voit quand même souvent?
Ben, c'est particulier parce que ça fait au-dessus de 3 ans qu'ils sont en négociation, puis il n'y a rien qui se passe. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ils sont tannés, puis ils trouvent des façons d'exercer une visibilité pour mettre de la pression sur le gouvernement. Mais tu sais, ça aussi, ça, c'est tout à fait de bonne guerre. Puis, le Bernard Drainville a décidé qu'annuler l'activité, mais entre toi et moi, les ingénieurs ne menaçaient pas ou n'auraient pas, ni de près ni de loin, menacé la sécurité. Ils ne seraient pas entendre, ils auraient été visibles. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me fait brousser le poil. Là.
C'est-tu quelque chose qui risque d'avoir des gros impacts, la grève des ingénieurs? Parce que là, on semble comprendre qu'on est encore la grève générale illimitée a été déclenché dans les derniers jours. Déjà, on commence à voir certains impacts. Est-ce que tu t'attends à ce que ce soit un conflit qui continue de perdurer?
Ben écoute, comme j'avais déjà dit, moi, c'est un groupe qui fait affaire avec la firme pour laquelle je suis, la communication Ryan Affaires publiques. Moi, je ne suis pas impliqué directement dans ce dossier-là. Mais, par contre, Puis ça, je l'ai dit déjà, je comprends pas que le gouvernement ne règle pas avec ses ingénieurs, parce qu'on le sait, là, ils ont une expertise pointue, puis le débat sur l'entretien des infrastructures, c'est au cœur, là, l'explosion des coûts. Fait que moi, je crois beaucoup à l'interne, puis je m'attendais à ce que la nouvelle présidente du Conseil de César ait moins de nouvelles, là, Francilène Durenceau, veuille régler avec ses ingénieurs. Je pense pas que l'écart soit si important que ça, puis qu'à un moment donné, parce que là, ma crainte, c'est qu'on arrive, plus on approche des élections, plus ça risque d'aller après les élections, puis là, ben, avec qui comme, au gouvernement, etc. Fait que bref, oui, ça risque de traîner, de dégénérer, et il n'y a pas de raison pour ça, à mon avis.
Dernier dossier, Marc Rangé, que je voulais aborder avec toi. Oui. Radio-Canada qui rapporte ce matin que 850 travailleurs d'entrepôt dans le coin de Toronto ont récemment ratifié une convention collective. Puis le contrat est devenu le tout premier négocié par un syndicat avec le géant Walmart en Amérique du Nord. Est-ce qu'on vient de créer un certain précédent? Puis ça peut être quoi les impacts de ça?
Oui, c'est sûr que c'est un précédent. Tu sais, je regardais, parce que tu voulais qu'on en parle, c'est 400 magasins. Ça, c'est un entrepôt, mais au Canada, il y a 400 magasins Walmart, 100 000 employés, il n'y en a aucun qui sont syndiqués. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, tu comprends? Parce que c'est une industrie, le commerce de détail, où tu en as, que tu parles de Rona, de toutes sortes de métros. On voit qu'il y a un conflit chez métro, les entrepôts, etc. Fait que la syndicalisation... c'est quelque chose qui existe dans ces secteurs, fait que c'est pas normal. Fait que oui, c'est un précédent au niveau des entrepôts. Il s'était syndiqué en octobre 2024, fait que tu vois, ça a pris tout ce temps-là avant d'avoir un contrat de travail, mais c'est un tour de force d'Unifor d'avoir réussi à obtenir un contrat de travail. Maintenant, je veux pas être défaitiste, mais le syndicat devra bien, bien vérifier. Est-ce que Walmart, qui par le passé a pas hésité comme à Jonquière à fermer des magasins, est-ce que Walmart va regarder un plan B pour, pendant, oui, c'est négocié, oui, c'est signé, mais va regarder un plan B pour, dans l'avenir, préparer, déplacer les activités ailleurs, puis faire en sorte de contourner cette syndicalisation-là ou mettre de la pression. Mais, en soi, moi, chapeau à Unifor, parce que les gens étaient plafonnés à 24 de l'heure, même si ça faisait 20, 25, 30 ans. Tu sais, c'est en bas de 50 000 par année, ça. Fait qu'à un moment donné, là, la syndicalisation leur a donné un coup avec, je pense, c'est jusqu'à 5 de l'heure d'augmentation pour les plus vieux. Ça, c'est vraiment la mission d'un syndicat, d'améliorer le sort du monde qui en ont besoin.
Tu parlais de la possibilité pour Walmart d'essayer de peut-être contourner cette syndicalisation possible-là qui pourrait s'étendre. Est-ce que tu t'attends à ce qu'on le voit arriver, ça?
Bien, j'aime pas être prophète de malheur, mais je suis habitué de répondre à vos questions très directement. Moi, je m'attends à ça. Fait que je dirais à Unifor, regardez comme il faut, surveillez-les aller, puis d'accroître votre rapport de force en syndiquant de plus en plus d'entrepôts. D'ailleurs, en Colombie-Britannique, il y a un entrepôt d'Amazon. Ils sont en négociation. Ce serait une première. Mais on sait qu'Amazon, à Laval, a fermé ses entrepôts aussi. Fait que bref, les compagnies américaines, je fais remarquer, les compagnies américaines, moi, mon opinion, c'est qu'ils n'en veulent pas de syndicats et ils font tout pour éviter ça. Par contre, ils aiment bien ça, faire de la business ici. Bien, actuellement, dans le contexte de guerre tarifaire, moi, j'incite les syndicats à faire le maximum pour syndiquer chez ces entreprises-là.
Puis le problème pour Walmart, si jamais on décide de garder notre magasin-là, notre entrepôt, puis pas nécessairement déplacer, c'est qu'on vient on vient conserver ce précédent-là, puis on dit un peu aux autres, aux autres un peu partout, si vous vous syndiquez, c'est correct. Fait qu'il y a un... Si Walmart veut pas d'autres magasins qui se syndiquent, il embarque un peu dans un terrain glissant en laissant ce magasin-là syndiquer, je me trompe?
Non, mais c'est parce que, ben, tu te trompes pas, mais ce que je veux préciser, c'est qu'au Canada, c'est un droit fondamental, le droit de se syndiquer, et ça appartient pas à l'employeur. Les gens ont décidé, puis Dieu sait, ça n'a pas été facile, ont décidé de se syndiquer. L'employeur, il doit vivre avec. C'est une décision des employés de se syndiquer. Puis tu sais, je disais tantôt, est-ce que c'est normal que sur 100 000 employés, il n'y avait pas un de syndiqué? Dans un secteur d'activité où au Canada, avec les employeurs canadiens, le taux n'est pas à 100 %, mais dans le privé, c'est 30 % de syndicalisation. Au Canada, je veux dire de façon générale, dans le privé, c'est un peu plus faible en moyenne, 16-17 %. C'est pas normal que ce soit zéro.
Marc Rangé, expert en relations, négociations syndicales, toujours un grand plaisir.
Hey, merci Max, salut à vous deux.
Salut, bye bye. Marc Rangé, à qui on aime toujours beaucoup parler, quand on a des questions sur différents dossiers là, du monde syndical. Avant d'aller en pause et de passer à notre prochain invité, petite nouvelle, prendre note qu'en raison d'une panne de courant, le parc aquatique extérieur du village vacances Valcartier va ouvrir exceptionnellement ses portes à 13h, c'est selon les prévisions d'Hydro-Québec. Donc, reste fermé pour la matinée et le bord à parc va rester fermé pour toute la journée et en soirée. Le village vacances Valcartier, bon, qui dit que cette situation évidemment était involontaire de leur part. On va vous tenir informés de tout développement dès que possible.
Normalement, les activités qui devraient reprendre à 13h. La raison de cette panne de courant-là, c'est un camion de livraison qui a accroché des fils qui fournissaient l'électricité justement au village vacances Valcartier. C'est quand même un drôle d'hasard que ça arrive aujourd'hui alors que Québec met des mesures en place pour limiter pour des chauffeurs Inc. un peu partout au Québec.
Ben justement, on en parle avec Benoît Terrien, président de Truck Stop Québec, dans les prochaines minutes, 10h40 dans le Point de Max. Le Point de Max. Let's go, go. 10h44 minutes dans le Point de Max à Boulevard 102.1. Grosse nouvelle aujourd'hui, le gouvernement du Québec qui doit annoncer de nouvelles mesures pour faire face au phénomène des chauffeurs à rabais. Et dans ces mesures-là, ben, on a notamment le tout conducteur de poids lourd ontarien qui veut s'établir au Québec et possédant moins de 2 ans d'expérience devra passer un examen pratique avant de pouvoir se procurer son permis auprès de la SAC. On dit aussi que si l'individu en question échoue 2 fois aux examens pratiques, ben, il va falloir qu'ils suivent la formation que doivent passer les personnes souhaitant obtenir un permis de classe 1 au Québec. Cité par la presse, le ministre des Transports, Benoît Charrette, indique que c'est une mesure temporaire jusqu'à ce que l'Ontario puisse démontrer le resserrement de ses propres mesures de formation et de contrôle au niveau des titulaires de permis de classe 1. Pour en parler, on a le plaisir de recevoir au bout du fil le président de Truck Stop Québec, Benoît Terrien. Salut Benoît!
Bon matin!
Première question, puis c'est au sens assez large, là. Est-ce que c'est une ou de bonnes mesures qui sont annoncées ou c'est que de l'image?
Au départ, je pense qu'avec la pression des derniers mois, je pense aussi avec tout ce qui s'est dit dans les médias dans les derniers mois, je pense que nos gouvernements pouvaient pas rien faire. Notamment, le ministre des Transports qui sort une initiative de même, c'est pas parfait, mais c'est un pas vers l'avant. Pourquoi je dis ça? Parce que, bon, ça fait plusieurs mois que c'est réclamé, notamment par l'Association du camionnage, par l'industrie elle-même, et que on peut dire une affaire, c'est que là, les camionneurs qui vont vouloir s'installer au Québec, parce qu'il y en a des fois qui vont quitter l'Ontario, venir s'installer au Québec, ben vont devoir avoir minimalement 2 tests pratique là à passer, et si les 2 tests sont échoués, ben on vous retourne sur les bancs d'école et vous allez devoir refaire une formation, même si vous avez déjà une connaissance de l'industrie, et pour ceux en bas de 2 ans. J'aurais peut-être élargi parce qu'on sait pertinemment depuis nombreuses années qu'ils se donnent des permis de conduire dans des boîtes de Cracker Jack en Ontario. Moi, je pense qu'on aurait dû élargir le 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et suite à ça, ben tu vas suivre une formation. Je pense que ça aurait été parfait. Mais je peux vous dire une chose, c'est que c'est déjà salué par l'industrie, que c'est déjà un pas vers l'avant et que notamment, ben suite à ça, j'espère qu'on aura des conducteurs qui seront exemplaires sur nos routes parce que notre image en mange une claque depuis un bout.
La question que, ou du moins une des questions que je me pose, c'est, tu sais, à quel point ça va toucher des gens, cette mesure-là, tu sais, parce que là, on vise vraiment les camionneurs qui vont vouloir s'établir au Québec. Y en a-tu tant que ça? T'sais, ça se compte-tu en dizaines, si tu en centaines, si tu en milliers?
Ben, c'est sûr que si on était ontarien et on parlerait avec vous autres d'une station ontarienne, c'est pas le même nombre, effectivement. Au Québec, c'est peut-être un peu moins, puis même pas mal moins. Ça reste que je sais qu'à un moment donné, quand ils sont trop étiquetés en Ontario ou trop suivis, ben qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de s'en venir au Québec, puis ils décident de s'installer au Québec parce qu'on est puis ils s'installent pas loin. Vaudreuil est une terre d'accueil propice à eux autres. Toutes les villes limitrophes à l'Ontario, puis ils peuvent s'en aller travailler quand même en Ontario, mais rester au Québec, avoir un domicile au Québec, avoir le permis de conduire au Québec, et aussi bénéficier de notre RAMQ, bénéficier de tous nos programmes sociaux, puis continuer à utiliser un stratagème où ils ne payent pas d'impôts.
As-tu l'impôt?
C'est quand même aberrant, hein?
Oui, puis mais d'un autre côté, une autre des nombreuses questions que je me pose, c'est est-ce que le gouvernement du Québec, à un moment donné, est à peu près allé là aujourd'hui avec les nouvelles mesures jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire lui avec ses compétences? Parce qu'à un moment, tu sais, tu peux pas te mettre à intercepter tout le monde aux lignes Ontario-Québec, puis vérifier, puis même si tu voulais vérifier, eux autres, leur permis qui leur est donné en Ontario, je veux dire, est valide. Toi, t'as pas le, oui. Tu sais, sur le coup de même à la ligne, là, t'as aucune façon de dire, OK, oui, c'est un vrai bon permis, puis par rapport à, OK, non, c'est pas un bon permis, je me dis que le Québec a, puis c'est pas pour défendre le gouvernement, mais a peut-être pas de pouvoir pour aller plus loin en ce moment?
Les pouvoirs qui pourraient augmenter, c'est d'augmenter le nombre d'interceptions au poste de pesée routière. Ça serait déjà un bon move, sans trop se faire étiqueter de profilage. Parce que vous savez, hein, les communautés, comme moyen de défense, ben vont dire, ben tu cibles nos communautés, tu cibles nos gens, tout ça. Même l'industrie du camionnage en Ontario va faire la même affaire, va dire, vous ciblez nos communautés, des gens qui veulent travailler, tout ça. Mais au-delà de tout ça, qui cause des accidents en camion majoritairement dans la province ici? Qui est responsable d'une multitude d'accidents, autant en été qu'en hiver, puis des accidents graves ou des erreurs de débutants? C'est pas normal, des fois, de voir des camions qui ont arraché un coin de rue parce que, bon, ça tournait pas bien, prend plus large. Mais, tu sais, au-delà de tout ça, est-ce que le gouvernement en a assez fait? Fiscalement, il pourrait peut-être aussi aller plus loin, mais c'est de juridiction ontarienne. Fait qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? C'est peut-être de dire, bon, ben à cette heure, tu sais, la prochaine étape pourrait être très bien. La prochaine étape sera que si vous venez au Québec, vous devez nous montrer patte blanche sur votre formation et j'exige 2 ans de formation, mais je pense pas qu'on se rende là un jour parce qu'ils vont être étiquetés de toutes sortes de choses. Mais moi, je pense pertinemment, pour régler le problème du stratagème Chauffeur Inc., le ministre Zakaria fait rien, bouge pas en Ontario. Doug Ford bouge pas en Ontario. Qu'est-ce qui reste à faire? C'est d'implanter petit à petit des petites réglementations comme ça qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, ben il faudra peut-être en venir comme l'effet Trump aux États-Unis et son ministre Rubio qui ont dit, nous autres, tu parles pas anglais, t'as pas d'affaires ici. Est-ce qu'il faudrait arriver à dire, tu parles pas français, t'as pas d'affaires ici? Tu sais, il faudra trouver d'autres mesures qui vont faire en sorte de contrer le stratagème chauffeuring. Puis s'ils veulent les garder en Ontario, puis qu'ils cumulent le nombre d'accidents en Ontario, ben rendu là, ça sera à eux de prendre ces décisions-là. Mais au Québec, pour la sécurité des usagers de la route, il y a bien des gens qui vont partir en vacances dans les prochains jours. Ben c'est bien de valeur, mais il faut vraiment que on puisse se doter de quelque chose qui est très sécuritaire. Puis c'est une mesure parmi tant d'autres. J'espère qu'il y en aura d'autres d'annoncer, mais c'est une mesure parmi tant d'autres qui devra être appliquée.
À partir du moment où l'Ontario semble pas vouloir bouger, est-ce que la balle revient dans le cas du gouvernement, dans le camp du gouvernement canadien de mettre pression sur l'Ontario pour que ils mettent des structures ou des critères plus stricts pour octroyer leur permis à des camionneurs?
Si vous suivez M. Barcelou Duval, qui a mis beaucoup de pression dans les derniers mois au sujet du fédéral, de bouger dans ce dossier-là, ben ce qu'on a appris dans les derniers mois, c'est qu'il y a des ministres fédéraux qui ont été, disons, invités à des soirées, des galas, qui ont été faits par des associations de camionnage qui militent en faveur de l'incorporation des travailleurs de l'industrie. Donc, On a un gouvernement fédéral qui est majoritaire au pouvoir. Fait que qu'est-ce qui reste à faire, c'est de sortir d'autres choses. Mais oui, on peut le demander, on peut l'exiger. Mais vous savez comme moi, quand le fédéral est majoritairement au pouvoir, pas tellement sûr que ça va bouger, si ce n'est que monsieur et madame tout le monde vont finir par envoyer soit des demandes à leurs députés qui vont faire aussi des envois de courriels, dire j'ai vu un camion, qu'est-ce que vous faites dans ce dossier-là? Je pense pas que les ministres vont vouloir bouger. Zakaria a jamais bougé depuis qu'il sait qu'il y a un stratagème chauffeuring. Pourquoi qu'il bouge pas? Faudrait y poser la question. Doug Ford, est-ce que c'est parce qu'il y a plein de travailleurs qui sont dans sa province, peut-être, mais combien qui se privent de recettes fiscales depuis qu'il y a un stratagème chauffeuring? Ces gens-là, il ne faut pas se leurrer, là, ça paye pas les impôts. Là. Fait que moi, je pense qu'il va falloir qu'il y ait de la pression mieux ajustée. Bon, j'ai rien contre le Bloc québécois, mais il faudra que ça soit encore plus, puis que M. Barcelos-Duval continue de se battre pour l'industrie, mais ça reste que c'est un parti qui est pas au pouvoir, puis ça reste que c'est un parti qui peut dénoncer, mais on va leur fermer la trappe assez vite, là.
Benoît Thérien de Truck Stop Québec, un gros merci pour ton temps.
Merci. Bonne journée à vous tous.
Salut, à la prochaine. Benoît Thérien de Truck Stop Québec pour parler des nouvelles mesures du gouvernement québécois pour contrer le fameux phénomène des chauffeurs Inc, les chauffeurs à rabais, des permis qui sont octroyés en Ontario à des gens qui ne devraient pas avoir de permis pour des poids lourds. Et les statistiques parlent au Québec. Puis tu sais, évidemment, là-dedans, il y a une question de... Si tu te fais ramasser par un truck, c'est sûr que tu as plus de chances de mourir que si tu te fais ramasser par une Mini Cooper. Là, on s'entend, toute proportion gardée. Reste qu'il y a beaucoup plus d'accidents mortels qui impliquent des poids lourds en proportion par rapport aux dernières années. Et ça, c'est inquiétant. Puis des histoires de chauffeurs Inc, de chauffeurs à rabais, de gens qui ont des permis sur nos routes puis qui se promènent avec... Tu sais, un poids lourd, c'est une arme, là. Une voiture, à la base, c'est une arme. C'est considéré comme une arme si tu... Tu ne devrais pas pouvoir conduire ça sans les... Si t'as pas les capacités de le faire. Mais en Ontario, ces écoles-là, corrompues probablement au bout, puis qui donnent des permis, comme disait Benoît Thérien, tu pognes des permis dans des boîtes de Cracker Jack, là. C'est inacceptable.
Puis tu sais, c'est pas juste une croyance populaire qui est née ou des rumeurs, puis tout, non. C'est documenté, le 12 mai dernier, d'ailleurs, la vérificatrice générale de l'Ontario qui a soulevé plusieurs lacunes dans l'industrie du camionnage de l'Ontario précisément, en comparant notamment avec les règles qu'on a ici au Québec, en disant à l'Ontario, vous devriez prendre exemple sur vos voisins parce que vous autres, présentement, vous donnez des permis à des personnes qui ne sont pas qualifiées pour conduire ces poids lourds-là.
L'annonce est en train de se faire. Gertrude Bourdon, ex-PDG du CHU de Québec, qui se présente pour le Parti libéral du Québec dans la circonscription de Jean Talon. Actuellement, c'est Charles Milliard qui répond aux questions des journalistes, mais un petit peu plus tôt, c'est Mme Bourdon qui le faisait.
La passion... de pouvoir changer les choses en politique. Parce que, vous savez, dans la vie, tout le monde ici change les choses autour de nous. Mais la politique, c'est comme... Vous savez, moi, j'étais à la fiducie du patrimoine culturel des Augustines et puis je disais aux religieux, je pense que moi, j'ai un appel qui n'est pas le même que le vôtre, et c'est la politique.
Donc, Gertrude Bourdon qui explique pourquoi elle se lance en politique. J'ai dit Jean Talon, c'est qu'elle s'était présentée dans Jean Talon en 2019, mais là, c'est bien dans Jean Lesage qu'elle se relance aussi. Donc là, c'est sa troisième shot.
C'est sa troisième shot dans Jean Lesage en 2018 où qu'elle avait perdu. Jean Talon en 2019 où qu'elle avait perdu aussi. Puis Jean Talon en 2019, c'était la première fois en plusieurs dizaines d'années là, que c'était pas les libéraux qui occupaient cette circonscription-là à ce moment-là. Et maintenant, dans Jean Talon en 2026, c'est présentement Sol Zanetti, le député de cette circonscription-là.
C'est le début du Festival d'été de Québec. Ce soir, évidemment, qu'économiquement pour la ville de Québec, c'est une période excessivement importante. On en parle avec Éric de Monchaux, qui est franchisé propriétaire des Trois Brasseurs de Québec, où on sera d'ailleurs en direct ce soir. Puis je dis « on », ça n'inclut que la personne qui parle. Je serai là ce soir de 18h à 19h pour un pré-show Limp Bizkit avec les hits de Limp Bizkit et de Cypress Hill et aussi des extraits d'entrevue de Cypress Hill. Fait que Éric de Monchaux en studio. Après la pause, on parle des retombées du Festival d'été de Québec pour les restaurants Trois Brasseurs. Le point de mer. Vous entendez en instrumental derrière du Limp Bizkit, c'est ce qui va partir. Le Festival d'été de Québec ce soir avec notamment Cypress Hill aussi en première partie. Arrivez tôt, allez profiter d'une terrasse, pourquoi pas. Malgré les risques de pluie, là, on est, je vous dirais, à 60% pour l'ensemble de l'après-midi jusqu'en début de soirée. Puis après ça, on tombe à 40% de possibilité d'averse, mais ce sera pas des... Ce sera pas de la grosse pluie, là, de ce que je comprends. Puis de toute façon, avec des ressentis de 30, 28, 27, ça fait quasiment du bien plus qu'autre chose quand il mouille un petit peu. Fait que moi, c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller voir Limp Bizkit, mais pas du tout ce soir. Puis je vous dis d'arriver tôt, oui, pour profiter de Grande Allée, profiter du secteur, tout ça. Mais pour vous éviter du trouble aussi, là. Arriver dernière minute, c'est pas une expérience super apaisante. Je vais le dire comme ça, dans le secteur, t'es mieux de te prendre d'avance si tu peux le faire. Et d'ailleurs, Mathias, on va aller faire immédiatement un petit tour dans le circuit. Je vois que du côté de la rive sud, notamment, là, c'est le bordel.
Ouais, la 20 direction ouest, qui est encore très difficile, là, c'est rendu d'habitude, mais entre Taniata et Président Kennedy, c'est au rouge actuellement. Sinon, ralentissement habituel, Henri IV, direction sud, à hauteur de Charest. Le pont de l'île d'Orléans, circulation en alternance présentement en raison des travaux pour accéder à l'île d'Orléans. Présentement, c'est très difficile également. Je veux juste vous signaler que pour Charest, direction est, entre la rue de la Couronne et boulevard Jean-Lesage, présentement, c'est une voie de circulation dans chaque direction, ce qui ne crée pas nécessairement tant de problèmes pour l'instant. Mais si ça va être encore le cas ce soir, on ne sait pas encore, là, ça risque d'être très, très difficile. Et j'en profite pour vous rappeler que ce soir, si vous avez prévu aller en automobile au Festival d'été de Québec, Grande Allée en direction est qui sera fermée à la circulation automobile à partir de l'avenue Hollande. Donc, pour accéder au centre-ville ce soir, ça va se faire à partir de René Lévesque.
Ce soir, 18h, show spécial à Boulevard 102.1. On se fait un petit pré-show de Limp Bizkit et Cypress Hill. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on fait ça en direct de Grande Allée, en direct des Trois Brasseurs de Grande Allée. Et ça tombe bien parce qu'en studio, on a Éric de Monchaux qui est franchisé propriétaire des Trois Brasseurs de Québec. Salut Éric.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ben merci à toi d'être venu. Je pense que c'est une période un petit peu occupée.
Très occupé, oui. Ça fait quelques semaines qu'on prépare ce fameux FEC. Hein. Pour nous, on a racheté ce restaurant il y a 3 ans, donc ça fait notre 3e FEC. On est un peu rodé, mais on a préparé les équipes, on prépare la gazette. La gazette, c'est notre menu. Et puis notre brasseur, Zachary, qui lui a brassé énormément de bière pour pouvoir accepter et accueillir tous les festivaliers.
Il y a bien des aspects que je trouve intéressants de la gestion d'un restaurant sur Grande Allée pendant le Festival d'été de Québec. T'sais, oui, il y a les retombées économiques qui doivent être immenses. T'sais, c'est une période où il y a du monde en soirée tout le temps. Puis après, tu as la grosse vague qui s'en vient quand les shows finissent, autant sur les autres scènes que quand les plaines, le show se finit, je veux dire, sortir sur Grande Allée. T'as intérêt à marcher vite, mettons, pour te rendre sur Grande Allée, parce que si t'arrives 5 minutes trop tard, tu rentres nulle part, là.
C'est le moment le plus critique pendant le festival, c'est la sortie des concerts. C'est vraiment là où, parce qu'à partir de 15h, on a un flot de clients qui va arriver. Ça, on s'est bien géré, on a une rotation, on a préparé les équipes pour ça. Mais il est vrai qu'à 11h, les plaines se vident, tous les concerts se vident. On a une marée humaine qui arrive à la Grande Allée. On met des agents de sécurité. Et c'est vraiment le moment le plus critique où il faut faire comprendre aux clients que notre restaurant, on a la plus grande terrasse de la Grande Allée.
Ah oui.
Ouais, on a plus de 180 places assises sur la terrasse. On a près de 400 places en intérieur de restaurant, donc ça fait quand même une capacité, mais la capacité a des limites. Donc dire à certains clients, ben non, désolé, ah ben oui, mais j'ai rejoint des amis, oui, non, mais tu peux pas rentrer parce que ma capacité, et puis ben nous, on sommes garants de la sécurité de l'établissement. Donc c'est un peu chaud quelquefois, mais bon, c'est le fun, c'est le fake, c'est bien pour ça.
Mais c'est une réalité, ça. Puis tu sais, je pense que l'entrevue va aller un peu partout, là. On va sauter d'un sujet à l'autre, puis je vais accrocher souvent sur des éléments que tu mentionnes qui... tu parles de la sécurité. Gérer du monde chaud sur grande allée, qui veut rentrer, tu l'as dit, aller rejoindre les amis. Ouais, mais non, mais t'as pas le choix d'embaucher de la sécurité, puis ça doit être, tu sais, c'est la partie poche en bout de ligne aussi.
Oui, mais je pense que ça fait partie des règles du jeu. Et puis, voilà, nous on prend des agents de sécurité. Voilà, chacun son métier. Moi, je suis souvent à l'accueil pour filtrer les gens. On a eu une Saint-Jean cette année qui était extraordinaire. Et c'est pareil, à 23h, il a fallu prendre une foule de clients qui étaient importantes. Eh bien oui, c'est la règle du jeu. On se fait traiter de petits noms d'oiseaux parce qu'ils ne comprennent pas. Mais ça fait partie du jeu. Il faut essayer de calmer, il faut essayer d'expliquer aux clients. Et puis, ça se passe plutôt bien. Mais voilà, il faut prendre des professionnels parce qu'on a même des clients qui ont tellement envie de rentrer qu'ils passent au-dessus des barrières de nos terrasses pour pouvoir rentrer dans le restaurant. Donc, on est obligé de mettre un cordon de sécurité pour le bien-être des clients qui sont à l'intérieur. Et puis, surtout, aussi respecter les clients qui attendent quelquefois depuis 15-20 minutes pour pouvoir rentrer et se faire assigner une table. Donc oui, c'est compliqué, mais ça fait partie du jeu du fake. C'est comme ça.
Est-ce que vous prenez des réservations pendant le fake ou c'est premier arrivé, premier servi?
Non, on ne prend plus de réservations. C'est trop compliqué parce que justement, quand vous avez une file de clients qui attend depuis 20-30 minutes, qui voit des tables vides parce que vous avez pris des réservations, mais le flux de clients fait que les clients qui ont réservé n'arrivent pas à arriver à l'heure ou simplement... C'est un petit peu nos problèmes dans la restauration, il y a des no-shows tout simplement. Donc on a décidé depuis, en tout cas nous depuis la reprise du restaurant, on ne prend aucune réservation. Premier arrivé, premier servi. Il faut que les personnes qui vont venir, il faut que la table soit complète parce qu'on peut avoir des tables de 10, de 15. Oui, mais j'ai 6 amis. Non, vous devez être les 15 ici, sans quoi on ne vous installe pas. Sinon, les clients qui attendent ne vont pas comprendre pourquoi il y a des places vides. Donc, c'est toute une gestion. Et puis, voilà, comme toute chose, une expérience fait 2 ans. Donc, on a appris aussi beaucoup par rapport à ça.
On sait évidemment que le Festival d'été de Québec pour les restaurants de Grande Allée, puis même plus loin, à un moment donné, Grande Allée déborde, bien là, tu descends sur Saint-Jean, puis là, tu redescends, à un moment donné, tu t'es rendu en Basse-Ville. Oui. À quel point c'est un game changer, tu sais, au niveau, je sais pas, est-ce qu'il y a des chiffres qui peuvent nous faire comprendre à quel point c'est cette semaine et demie-là, pour un restaurant, ben c'est assurément la semaine la plus importante de l'année?
C'est la semaine la plus importante. C'est une densité de chiffres et de clients qui est phénoménale. Pour vous donner un exemple, il y a 3 brasseurs aussi sur Montréal. Et 3 brasseurs Montréal vit 4 jours intenses avec le Grand Prix de Formule 1. Okay, la première année qu'on a repris le restaurant de Grande Allée, on a bâti le record monde du chiffre d'affaires d'une journée de tous les 3 brasseurs. Pour vous dire l'intensité, on a servi plus de 2600 clients en une journée. Donc, c'est un flux, c'est un flot de clients. Oui, donc c'est des retombées qui sont énormes. On a dû réduire la gazette parce qu'il y a un moment donné, servir des clients comme ça, quand vous avez votre restaurant qui est à pleine capacité, c'est-à-dire qu'on a près de 600 clients dans le restaurant, on a 7-8 cuisiniers qui sont sur la ligne derrière. Il faut se rendre compte qu'il faut envoyer tous les plats. Donc, on réfléchit, on est stratégique sur la constitution de notre gazette pour avoir des plats qui s'envoient vite, pour pouvoir faire des rotations de table et que les clients soient servis comme il faut. Mais oui, c'est une période très, très dense pour nous. C'est des chiffres d'affaires qui se multiplient sur certaines journées par 10 par rapport à une journée normale.
Tu parles de la gazette, ça c'est votre menu pendant le festival d'été. J'imagine que c'est quand même une décision... qui peut être dur à prendre. T'aimerais ça pouvoir offrir ton menu
évidemment
au complet, puis mais t'as pas le choix. Si tu veux servir tout le monde, ben faut que t'aies, je sais pas c'est quoi le nombre d'éléments qui sont offerts, mais ça a pas le choix d'être limité le plus possible.
On doit limiter, on doit avoir l'exécution, ça doit s'envoyer rapidement. On a 3 tonnes de frites qui vont passer pendant 10 jours. On va vendre plus de 2500 burgers, plus de 2800 nachos, les poutines. Laissez tomber, c'est pareil, c'est un gros succès. Et puis, on brasse nos bières dans chacun de nos restaurants. Donc là, pour vous donner hein, peut-être aussi une idée, un fût de bière, c'est entre 30 et 50 litres. Nous, nos fûts de bière, quand on brasse, c'est 800 litres. Là, on stocke actuellement, j'ai 8000 litres de bière dans mon restaurant, plus 3000 litres de bière en fermentation. Donc j'ai un stock pour ces 10 jours de 11000 litres de bière. Donc on peut accueillir, il y aura encore de la bière à la fin du FEC. Parce que bon, il y a encore l'été qui continue. Donc,
puis on parle d'achalandage exceptionnel. On n'était pas sûr, il y a de cela quelques mois, que Grande Allée allait être piétonne. Il y avait comme des doutes par rapport à ça. Ça a dû être un soulagement pour vous lorsque vous avez eu la nouvelle que ça allait être piétonne.
Oui, alors c'était la grosse nouvelle, le gros stress. Parce que quand je vous dis qu'on a la plus grosse terrasse, c'est la plus grosse capacité. Donc en extension, c'est la même chose. Donc nous, on perdait 70 places de terrasse. On peut saluer quand même la ville de Québec. Je trouve qu'ils ont une adaptabilité, une réactivité. Sincèrement, ça me faisait un peu peur. Avec Mélanie, qui est ma conjointe et associée, on s'était dit, bon, puis il y a la ville qui fait des choses, mais je trouve que la réactivité est bonne. Donc là, ils nous ont autorisé à mettre cette extension depuis le 15 juin jusqu'au 19 juillet. On va voir après le 19 juillet ce qui va se passer. Il y a eu des décalages de travaux. Je ne vais pas vous dire que nous, ça ne nous rend pas service. Je parlais encore avec mon voisin ce matin. Voilà, on est hyper content d'avoir pu mettre et installer ces terrasses. Mais j'avoue que la ville a été assez réactive là-dessus et il faut le saluer.
Puis lorsqu'on vous a permis, lorsqu'on a fait cette annonce-là, qu'on allait rendre Grande Allée piétonne cette année, est-ce qu'on vous a sous-entendu d'un certain sens que ça allait être la dernière année où il n'y a pas de signe de ça nécessairement?
Il n'y a aucun signe. On y va vraiment step by step. C'est voilà, on a appris, mais 3-4 jours avant, vous allez pouvoir installer vos terrasses. OK, on les installe, c'est jusqu'au 19 juillet. 19 juillet, qu'est-ce qui va se passer l'année d'après et autres? Sincèrement, on a aucune lisibilité. C'est pour ça que je salue cette réactivité, parce que nous, ben, ça nous rend bien service.
Parlant de s'adapter, du côté des restaurants Trois Brasseurs, il y en a trois à Québec,
oui.
Vous gérez les trois.
Oui.
Est-ce que comment ça fonctionne? Est-ce que vous amenez du staff des autres Trois Brasseurs sur Grande Allée pour cette période-là? Parce que j'imagine, tu sais, là, on parle beaucoup, bon, la quantité de bière qui est quand même hallucinante.
Oui.
On parle des menus qui sont plus restreints pour la vitesse. Mais reste qu'à un moment donné, pour servir tout le monde qui passe, ça prend du staff. J'imagine que tu peux pas rouler avec la même quantité de staff qu'à l'habitude.
Non, on double, voire sur certains secteurs, on triple les équipes. Vous savez que la Grande Allée, en plus, on est très météo-dépendant. Donc, ça joue énormément avec la météo. Et effectivement, on a nos équipes qui sont et qui s'adaptent bien. Et merci à tous mes collaborateurs et collaboratrices, parce qu'effectivement, on a des gens de Capitale, on a des gens de Laurier, de Place Sainte-Foy, qui viennent nous dépanner. Ce matin, là, j'ouvrais le restaurant parce qu'on est en train de mettre les dernières mises en place. Bah, je peux vous dire qu'il y avait trois personnes qui ouvraient le restaurant ce matin. C'est trois personnes de Laurier. Et une de Capitale. Donc, que ce soit en cuisine ou que ce soit, effectivement, nous, on va s'appuyer sur nos autres restaurants pour pouvoir... Alors, on embauche aussi, hein, bien évidemment, parce qu'on ne va pas vider non plus. Il faut que Capitale et Sainte-Foy puissent tourner. Mais oui, c'est une force pour nous de pouvoir s'appuyer sur les autres restaurants, heureusement.
Et est-ce que les employés veulent travailler pendant le Festival d'été de Québec? On ne va pas se cacher que le type qui rentre doit être assez hallucinant, mais de l'autre côté, tu dois en avoir qui te disent « Moi, j'aimerais ça être en congé pendant le Festival d'été de Québec pour en profiter. » Comment ça va, la gestion des horaires?
On a les deux cas. On a les deux cas et on essaie de leur donner des journées pour qu'ils puissent profiter justement du festival, d'aller au concert. On a vraiment les deux cas où il y en a, effectivement, hein, comme vous le précisez, c'est des grosses journées. Donc, c'est des gros tips. On met aussi des incentives parce que faut pas oublier que si on arrive à servir 2000, 2500, 2800 clients par jour, ça sort de quelque part. Donc, ça sort de la cuisine. Donc, même en cuisine, on essaie d'aménager et puis de donner des petits incentives pour leur donner aussi envie que tout le monde gagne, quoi. Voilà.
Au niveau des commandes de nourriture, parce que là, on a fait la bière, on a fait le staff, j'imagine que vous vous arrangez pour ne manquer de rien avec des commandes qui, encore là, vont être beaucoup plus massives que ce que vous avez en stock habituellement.
Mon Dieu, oui, là, c'est Thomas, mon chef, là, me disait « Ah, j'ai fait rentrer 3 tonnes, là, j'ai fait rentrer 2 tonnes 5, là, j'ai fait rentrer 1 tonne 8. » Ouais, d'accord, OK. Mais on a des murs. Là, il fait sa commande pour la semaine prochaine avec... les frigos, les congélateurs qui sont pleins à craquer. Donc, il essaie... Bon, alors, on a l'expérience des années précédentes. Mais oui, tout est démesuré. Parce que faut dire ce que c'est. Et ce qu'il en est, le fait que c'est quand même un événement extraordinaire. Moi qui suis, bon, vous avez remarqué que j'ai un accent, donc j'ai quand même pas mal bourlingué aussi en France et autres. C'est le plus gros festival que j'ai vu de ma vie, les infrastructures, l'organisation. Donc ouais, tout va avec, tout est démesuré, les commandes, il faut gérer le parking derrière, faut penser à tout. Il faut rien oublier.
Qu'est-ce que vous avez appris en 3 ans? Y a-tu quelque chose que là, la première année, on a fait « Oh, OK, là, il y a quelque chose qui ne marche pas puis il va falloir s'adapter? »
Ben, c'est ce que je vous citais tout à l'heure, c'est gérer et gérer la foule, gérer les clients qui rentrent dans le restaurant. Il y a 3 postes dans un restaurant qui sont stratégiques. Vous avez l'accueil, parce que vous dispatchez, puis vous équilibrez vos rangs, vos sections. C'est-à-dire que voilà, si vous chargez tout dans une section, bah, votre serveur il va être vite débordé. Il faut que vos serveurs ensuite puissent commander au fur et à mesure pour que la commande puisse pas... Toutes les commandes n'arrivent pas en même temps. Donc vous avez l'accueil, vous avez le pass. Donc là, on nomme des personnes responsables du pass qui sont là pendant tout le fait, qui vont envoyer les plats, dispatcher les tables. Et puis le bar aussi. Le bar où toutes les boissons doivent partir, les cocktails, les bières, etc. Alors nous, on a la chance d'avoir 2 bars. Donc, on a sectorisé les secteurs et les sections en fonction des bars, etc. Donc, on apprend toutes ces petites choses-là parce que y a un moment donné, quand vous avez le restaurant qui est plein et vous êtes à 40-45 minutes d'attente pour vous faire servir, c'est pas catastrophique pendant le FEC. Mais l'année passée, on a été en moyenne à 20 minutes. Vous voyez ? Donc, de la première année à la deuxième année, on organise pour essayer de satisfaire un maximum les clients, des couacs, il y en a tout le temps. C'est comme ça, c'est la vie d'un restaurant. Et puis, vous savez, vous êtes en plein rush et puis tout d'un coup, plus d'électricité, tout saute. Vous n'avez plus de musique, vous n'avez plus de son, mais vous n'avez plus de Wi-Fi. Donc, vous n'avez plus de système de caisse, donc vous n'avez plus rien. Donc voilà, il faut réagir à tout ça. Mais c'est les aléas, c'est comme ça qu'on fait fonctionner un restaurant. Et puis voilà, techniquement, quelquefois, il y a des petits soucis.
Qu'est-ce qui est le plus payant entre 11 soirs de festival d'été de Québec ou 19 matchs de série du Canadien? Pour la succursale de Grande Allée.
Ah, pour la succursale, c'est
le FEC. Hein?
Incontestablement, pardon. Oui, c'est le FEC. Cette année, les Canadiens, moi, je les adore. C'est vraiment... C'est super. Et puis bon, vous savez que moi, aujourd'hui, il y a un match important pour nous, les Français.
C'est vrai, ça. Ben, le sentez-vous, justement, ça?
Oui.
Est-ce qu'il y a des gens à vous présenter
les
matchs?
Oui, oui, ben, oui. Grande Allée, c'est un... Oui, on diffuse tous les matchs. Et Grande Allée, c'est quand même un site assez touristique. Donc, effectivement, on peut avoir autant des Mexicains, on a quand même pas mal de nationalités qui viennent voir les matchs. Donc,
fait
oui,
que ça...
oui.
En même temps que le Festival d'été de Québec, ça vient rajouter quand même une bonne coche d'affluence.
Ça vient rajouter une coche d'affluence. Après, ça dépend l'heure des matchs. Parce que c'est sûr que si vous avez un match à 19h, nous, à 19h, il y en a partout.
Mais là, c'est 16h.
16h.
Vous allez déjà probablement être plein ou presque à 16h.
Ouais, ça va commencer à bien bouger, mais... On joue le jeu, on a installé des grands écrans à l'étage du restaurant. On a la chance d'avoir un établissement qui est très grand, donc on va pouvoir aller mettre des clients là-haut s'ils veulent voir le match tranquillement, mettre de la musique en bas. On a un système qui nous permet de sectoriser tous nos trucs. Mais oui, le match des Canadiens, pour revenir là-dessus, ça a été, quand ils étaient en série, on a les vendredis soirs, nos 3 restaurants étaient pleins. Étaient pleins en réservation. Mais bon, le fait que c'est... C'est hors catégorie, on va dire.
Si on sort un petit peu du Festival d'été de Québec, qu'est-ce qui fait que les 3 brasseurs ont été en mesure, puis tu sais, la marque à travers le Québec au grand complet, ici à Québec, c'est encore très fort aussi. Il y a eu la grosse mode des micro-brasseries qui sont arrivées à un moment donné, puis que là, tout le monde ne parlait que des micro-brasseries, puis 3 brasseurs ont été en mesure de rester fort quand même. Puis qu'est-ce qui explique ça, selon toi?
Ben, la restauration. C'est-à-dire que nous, on a un business qui est équilibré avec... On fait quand même... Vous avez beaucoup de microbrasseries qui aujourd'hui, leur activité principale, c'est brasser de la bière, c'est vendre de la bière et aussi de le vendre dans des épiceries et autres. Mais la force de 3 brasseurs, c'est qu'à la fois, on a une gamme de restauration. Donc, c'est ça qui permet de tenir. D'ailleurs, on a même quelquefois, ça nous joue un petit peu sur l'image. On nous prend plus pour des restaurateurs que des brasseurs. Mais nous, que ce soit sur Laurier, sur Capital, à Le Bourgneuf ou sur Grande Allée, on a un brasseur dans chaque restaurant qui brasse la bière. Donc ça, c'est une force, mais ça ternit un peu l'image où on se dit, ouais, bon, mais on a un super outil, on brasse nos bières de façon artisanale, donc c'est quand même quelque chose de fort. Mais je pense que c'est cette image de restaurateur qui nous permet de rester dans le match.
Est-ce que tu as eu une réponse à la question que je t'ai posée avant? Alors, très, très égoïstement, j'ai posé la question à Éric de Monchaud des Trois Brasseurs de Québec. Là, sur Grande Allée, dans le menu réduit, est-ce qu'il va avoir les cornichons frits?
Pas la réponse, oh, Max, je suis désolé.
Ben, je vais le savoir tantôt quand je vais
aller... Ah, mais j'ai t'envoyé un texto.
OK, parfait, parce que là, je vais aller m'installer de toute façon tantôt à 18h, cornichons frits ou pas sur la terrasse.
Oh, il y a plein d'autres choses.
Ouais, ben, y a-tu quelque chose que je devrais essayer en particulier, là, vite de même, là, pour remplacer mon... Parce que là, ça va me prendre un nouveau classique. Là. Moi, dans les dernières années, les cornichons frits, c'était mon classique. Et moi, j'étais un gars d'habitude. Fait que ça va me prendre un nouveau classique.
Ouais,
que je...
ben, vous allez voir, dans les bouchées apéro, on a quand même pas mal de choses assez sympas et qui se grignotent bien. Je suis certain que vous allez trouver votre bonheur. Non, non. Et puis, on a aussi on a une spécialité qu'on a du mal à expliquer au Canada. Parce que vous savez que Trois Brasseurs, c'est une marque française à l'origine.
Je savais même pas.
Si, c'est né en 1986 en France.
Ah ouais.
Alors, je connais bien l'histoire parce que je suis l'ancien CEO de Trois Brasseurs International. Donc en France, on a 99 Trois Brasseurs.
Hein?
Au Canada, il y en a 15. Et puis moi, j'ai lâché mon poste fin 2024 pour reprendre la franchise sur la ville de Québec. Mais on a la flamme cuche. La flamme cuche, c'est une spécialité de l'Est de la France. Et les gens... que ce soit enfin, on est sur le continent nord-américain, ils pensent toujours que c'est une pizza. Mais non, c'est une pâte très, très fine. C'est une spécialité alsacienne. Il faudra goûter ça. On en a plein.
Assurément. Et bon, 18h ce soir, peu importe ce qui arrive, moi, je suis assis sur la terrasse des Trois Brasseurs Grande Allée. Show spécial en direct jusqu'à l'animation d'un pré-show Limp Bizkit. Fait que vous êtes dans la voiture ce soir, dans l'autobus, vous mettez vos écouteurs avec l'application Boulevard et ben, on se met dedans ensemble avec les meilleures tunes de Limp Bizkit, des extraits aussi de mon entrevue avec Cypress Hill que je vais enregistrer aux alentours de 17h. Cypress Hill qui est en première partie de Limp Bizkit ce soir. Fait qu'on se voit ce soir sur la terrasse des Trois Brasseurs et sur les plaines. Éric de Monchaud, franchisé propriétaire des Trois Brasseurs de Québec, ben, je vais te souhaiter un bon fête, mais de toute façon, j'ai l'impression qu'on va se croiser souvent.
J'ai l'impression aussi. Merci de m'avoir invité.
Merci
Bonne
beaucoup.
Journée.
Un grand plaisir. Au retour, les nouvelles, les sports et Pascal CV vient faire son tour. Vous écoutez Le Point de Max à Boulevard, 11h24.
Le Point de Max.
11h28 minutes dans Le Point de Max à Boulevard 102.1. Quelle entrevue fascinante avec Éric de Monchaud, qui est franchisé propriétaire des Trois Brasseurs de Québec et aussi, et c'est une information que je n'avais pas, ancien CEO des Trois Brasseurs internationales. Rien de moins.
Rien de moins. 99 restaurants en France, 15 au Canada, rien de moins. Hein.
Texto, c'est pas le fun qui est entré. Là, sachez que c'est toujours bien apprécié des textos de ce genre-là. Bonjour, juste vous dire que j'ai beaucoup aimé l'entrevue avec les Trois Brasseurs. J'ai appris beaucoup de choses grâce aux questions pertinentes et les réponses étaient claires et permettaient de comprendre la situation particulière de la période du FEC. Merci. Puis, tu sais, je le dis, oui, on peut se donner le mérite de poser des questions, mais monsieur de Monchaud était... J'aurais parlé encore une demi-heure, là, pour vrai. Là. Oui. Surtout, quand, à partir du moment où il a ouvert la porte de ancien CEO de Trois Brasseurs International, on pourrait se refaire une entrevue complète là-dessus. Peut-être qu'on le fera dans les prochaines semaines. Parce que là, d'après moi, dans les 10 prochains jours, monsieur sera occupé un brin.
Je pense juste un petit peu. Hein. En plus, je trouvais ça cool. Il disait qu'il était, tu sais, le soir, quand le monde arrivait, qu'il était là pour aider les agents de sécurité à trier le monde.
Bien ça, puis à matin, c'est lui qui montait les tentes.
Ah, c'est fou raide.
Fait que non, ça a l'air un monsieur très, très fascinant. Je l'aime beaucoup. Je vais le dire, je l'aime beaucoup.
Très impliqué.
Ouais, fait que, puis moi, je vais passer ma semaine avec, là, sur la terrasse des Trois Brasseurs, d'après moi. Fait que c'est ça, merci pour le texto. 418-971-1021, n'hésitez jamais. On va faire le tour des nouvelles dans les prochaines minutes, mais avant, parce que c'est bien important, surtout pour les 10-11 prochains jours, la météo. Puis là, on va tout le temps checker aussi le heure par heure, parce que s'il tombe des cordes l'après-midi, c'est pas notre problème, nous autres rendus ces plaines là, le soir. Fait qu'aujourd'hui, en ce moment, c'est 24 degrés, 30 ressentis, généralement nuageux. On a un peu inversé la tendance. Tantôt, il y avait plus de pourcentage de précipitations en après-midi qu'en soirée de mémoire. Là, on a un peu inversé les choses, mais c'est un 40% pour l'après-midi. Puis en soirée, on est autour de 60 % de probabilité d'averse, mais je vais répéter ce que j'ai dit tantôt. À 28-27 ressentis, là, rendu à 21h-22h, de la petite pluie, je pense pas que ça va nous empêcher d'aller voir Limp Bizkit.
Plus loin que ça, je pense que ça va presque être apprécié si ça arrive vers 21h-22h. Comme tu dis, là, ben, une fois bien collé, bien chaud en avant dans la foule, là, une petite pluie qui tombe, c'est parfait.
Puis mettons que vous autres, un show à la pluie, ça vous intéresse pas pantoute. Ben, j'ai envie de dire tant pis pour vous. Là. On se verra pas ce soir, puis c'est votre problème. Par contre, vous allez être gâtés en Simonac pour les prochains jours. Demain, vendredi, ça se dégage en journée là, pour devenir super beau en soirée, 25 le maximum. Samedi, que du soleil, 27. Dimanche, que du soleil, 30. Lundi, du soleil, 29. Mardi, c'est des nuages, pas de pluie, jusqu'à preuve du contraire, 30. Mercredi, alternance à les nuages, 28. Fait qu'au moins pour une bonne moitié du Festival d'été de Québec, là, même plus que ça, là, on a l'air seté en tabarouette pour avoir une méchante belle météo qui va être de notre bord. Fait qu'à part pour ce soir où il y a un peu de pluie, là, jusqu'à mercredi prochain, il n'y en aura pas de pluie à Québec, donc on va assurément en profiter. Mathias, là, je viens de donner des bonnes nouvelles à la météo. Viens nous scraper ça avec une belle circulation.
Ben, je pense que les gens de la Rive-Sud commencent à être au courant, mais avant, direction ouest, encore une fois, c'est difficile aujourd'hui en raison des travaux dans le secteur de Taniata, entre Taniata et Président Kennedy, c'est au rouge complètement. Je vous transporte du côté de l'île d'Orléans, la circulation qui est présentement en alternance pour rentrer sur l'île.
Encore?
Donc, encore une fois, c'est jusqu'à 15h aujourd'hui. Donc, l'accès à l'île d'Orléans présentement, très difficile. Il y a un petit quelque chose qui semble se former, là, accès au pont Pierre-Laporte en direction nord. J'ai pas plus de détails, mais un peu d'attente. Henri IV, direction sud dans le secteur de Charest, c'est au rouge. Laurentienne, direction sud pour accéder à la capitale, un peu d'attente. Et je termine avec un accident qui a mené à la fermeture de la route 371 dans le secteur de Saint-Gabriel de Valcartier à la hauteur de la rue Charles. Et ça, c'est en raison, d'un camion. Un camion qui a accroché des fils électriques qui donnent l'électricité au village vacances Valcartier. Ce qui veut dire que cet accident-là a mené à la fermeture de la route 371, mais également village vacances Valcartier qui a dû complètement suspendre ses activités en matinée. Normalement, tout qui devrait reprendre aux alentours de 13h en raison de ce fameux camion-là qui a accroché tous les fils électriques dans le secteur.
Mathias, dans les autres nouvelles, de quoi on parle en ce jeudi?
Justement, je vous parle d'un camion qui a accroché des fils électriques, puis c'est quand même un drôle d'hasard, là, parce que le gouvernement du Québec annonce aujourd'hui de nouvelles mesures pour encadrer davantage les fameux chauffeurs à rabais. À partir de maintenant, tout conducteur de poids lourd ontarien qui possède moins de 2 ans d'expérience et qui souhaite s'établir au Québec devra passer un examen pratique pour se procurer un permis auprès de la SAAC. S'il échoue 2 fois ces examens pratiques-là, le conducteur devra suivre la formation habituelle normale pour obtenir un permis de classe 1 au Québec. Tout ça fait suite à toute la saga là, des chauffeurs à rabais ou chauffeuring du côté de l'Ontario, que des conducteurs pas inexpérimentés obtiennent des formations pas nécessairement avec toute la formation qu'ils devraient avoir, ils obtiennent des permis. Une enquête pour homicide est en cours à Jonquière à la suite de la mort d'une personne hier soir. Des policiers qui sont intervenus vers 17h hier, près du quartier étudiant, en lien avec des voies de fait armées. Le suspect qui s'est initialement barricadé a été maîtrisé et arrêté vers 21h30. En plus de la personne retrouvée morte, un blessé a aussi été transporté à l'hôpital. Le Parti libéral du Québec a annoncé ce matin la candidature de Gertrude Bourdon, l'ancienne grande patronne du CHU de Québec, comme candidate dans Jean Lesage. Elle a aussi été candidate pour les libéraux dans Jean Lesage en 2018 et dans Jean Talon en 2019. Jean Lesage qui est présentement représenté par Sol Zanetti et selon les projections de QC125, les libéraux qui se retrouvent à la 4e place et qui n'ont pas vraiment de chance de l'emporter. J'en profite pour vous préciser que les libéraux présenteront aussi leur candidat dans Lévis cet après-midi.
Je ne veux pas être prophète de malheur pour Mme Bourdon, mais ça ressemble au fameux « jamais 203 ». Après 2 défaites dans les dernières années, Tu sais, tu peux être quatrième, puis là, c'est une course à quatre, puis c'est serré, ou tu es un peu derrière, puis avec une bonne campagne, tout est possible. Et là, tu regardes dans Jean Lesage, puis c'est vraiment une course à deux qu'on a entre QS et le Parti québécois. 31% pour Québec solidaire, 29% pour le PQ. Après ça, on a une course à trois pour le podium. Ça, ça donne absolument rien, mais 16% les conservateurs, 12% les libéraux et 11% pour la CAQ. Fait que tu sais, c'est même pas irréaliste de croire que les libéraux pourraient finir dernier là, parmi les grands partis dans Jean Lesage, qui est actuellement représenté par le co-porte-parole de QS, Sol Zanetti.
Une première entreprise a confirmé avoir prévu répondre à l'appel d'intérêt pour le troisième lien à l'Est lancé par le gouvernement du Québec, nous apprend le Soleil. C'est l'entreprise de construction EBC qui est située à l'ancienne Lorette qui prévoit lever la main. C'est un acteur déjà bien présent dans plusieurs projets de transport de la capitale nationale. Ils font notamment partie du consortium du pont de l'île d'Orléans et participent aux travaux Tram Cité. Hydro-Québec poursuit deux de ses syndicats pour atteinte à la réputation. Tout ça suit une campagne de publicité diffusée à la télé. Là, on parle de la direction d'Hydro qui est complètement déconnectée avec deux fils séparés. Ou encore une image qui dit « La direction chez Hydro, c'est une vraie joke » avec un labyrinthe rempli de fils. Visiblement, Hydro-Québec, qui n'a pas aimé la chose, poursuit syndicat pour un total de 500 000 $. Le conflit est repris de plus belle du côté de l'Iran alors que les États-Unis ont multiplié les attaques sur des cibles dites militaires, tandis que l'Iran les accuse de vouloir s'en prendre aux funérailles de Khamenei prévu aujourd'hui. Tout ça suit l'Iran qui garde un contrôle sur le détroit d'Hormuz, malgré le fait qu'il avait dit aux États-Unis que ça allait revenir à la normale. C'est une situation qu'on va continuer de suivre de près au cours des prochains jours.
Puis on dirait que je suis tellement tanné. On le suit, puis ça, je pourrais faire les nouvelles sans même regarder ce qui se passe, puis dire bon, ben là, ils ont recommencé à se tirer dessus, puis là, un dit que c'est la faute à l'autre, puis là, l'autre dit qu'il va répliquer encore plus fort, puis là. Puis là, finalement, on va arriver et dire hey, « finalement, il y a des négociations ». On dirait qu'on repart tout le temps à la même place dans le conflit États-Unis-Iran, puis je trouve ça lourd.
Puis je pense que t'es pas tout seul, tu sais, puis veut pas au final, puis c'est pour ça qu'on continue de suivre pour vous, c'est que à partir... Si jamais l'Iran décide de refermer le détroit d'Hormuz, ça a un impact direct sur nous autres, sur le prix de l'essence, sur l'inflation. Mais effectivement, ça semble tourner en rond du côté de l'Iran. Je vous fais un petit tour rapide de la circulation qui va changer, qui va être mise en place pour le Festival d'été de Québec. Je commence par des navettes qui vont être rendues disponibles pour tout au long du festival là, par le RTC à quatre endroits précis avec des stationnements incitatifs pour vous stationner et par la suite vous diriger au festival en autobus, sur le Bourgneuf au stationnement Hydro-Québec, dans Charlebourg, stationnement 41e sur Henri Bourassa, à Beauport, stationnement Promenade Beauport, et à Sainte-Foy, dans le stationnement du Centre de glace Intacre Assurance. Donc, des navettes qui vous emmènent directement sur les sites du Festival d'été de Québec, des départs qui sont prévus aux 10 minutes entre 17h30 et 20h30. Je vous signale aussi, si vous avez prévu y aller en voiture directement pour accéder sur le site, grande allée sera fermé à la circulation automobile en direction est à partir de l'avenue Hollande. Donc, vous ne pouvez pas y aller sur la Grande Allée pour accéder au site. Vous allez pouvoir sortir, par contre. Direction ouest, ça va être ouvert, mais en direction est, ça va être seulement autobus et cyclistes. Donc, on vous conseille de passer par René Lévesque. Également, je reviens sur un texto de Christiane Lévy là, qui dit que ça va être le bordel pour, avec le monde qui vont aller au FEC sur la rive sud. Je vous fais un petit message, là. Effectivement, là, à voir l'état de la 20 direction ouest depuis maintenant plusieurs jours, quelques semaines, on peut dire, en raison des travaux à niveau de Taniata, qui est bouché à longueur de journée. Tout à l'heure, si vous voulez aller au FEC, peut-être vous prendre un peu d'avance parce qu'il risque d'avoir beaucoup de trafic. Et je termine en vous rappelant la mort de la chanteuse britannique Bonnie Tyler, une grosse star des années 80, connue pour plusieurs de ses grosses chansons pop, qui est décédée à l'âge de 75 ans après une opération d'urgence en mai au Portugal.
Puis, tu sais, on dit plusieurs, là. Oui, il y a quelques hits. Je ne parlerai pas nécessairement d'un One Hit Wonder pour Bonnie Tyler, mais mettons qu'il y a une toune qui sort du lot. Donc, décès de la chanteuse de Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler.
J'aime beaucoup Holding Out for a Hero aussi de Bonnie Tyler. En fait, je pense que je préfère presque celle-là.
Notamment tirée de Footloose. En fait, normalement, ça n'avait pas été fait pour Footloose.
Dans beaucoup de films, Footloose, Shrek 2 aussi, qu'il a utilisé un peu plus récemment, Super Mario Bros. Movie aussi.
Bon. Je reviens un peu sur le dossier des chauffeurs à rabais, des nouvelles mesures instaurées par Québec aujourd'hui pour contrer ce phénomène-là. Et je lisais dans le Journal de Québec l'histoire d'un gars. On dirait que je peux pas pour raconter une joke, mais c'est pas ça, là. C'est un instructeur de conduite de Montréal qui, lui, fabriquait de faux permis à des camionneurs inexpérimentés. Et là, lui est en cours en ce moment pour ça. Puis, et là, mon sac de sympathie, comme dirait Denis, va être assez vide. Là. Lui, il demande de s'en sortir sans casier judiciaire.
OK. C'est quoi ses arguments?
Ben là, c'est que sans casier, il pourrait travailler comme camionneur. Il pourrait voir sa mère de 80 ans aux États-Unis.
OK.
T'as pas de sympathie pour ça, toi?
Ben, tu sais, s'il avait pas tout fait ce qu'il a fait, s'il avait pas fait des permis de façon illégale, il en aurait pas de casier.
Oui, mais Mathias, ce qu'il dit, c'est si j'ai un casier judiciaire, je ne pourrais pas voyager nulle part.
Oh mon Dieu.
Fait que c'est Gurpal Singh, au Palais de justice de Montréal, un camionneur de 54 ans qui demande la clémence de la juge, nous dit le journal, pour avoir fait ses faux permis de conduire indiens et pakistanais. On dit que ça permettait à des ressortissants de ce pays-là de mentir sur leur expérience de conduite et obtenir plus vite leur droit de chauffer un poids lourd en Ontario malgré l'absence de prérequis obligatoires. Hey, ça peut tuer du monde!
Tu sais, t'es responsable indirectement. Tu donnes un pouvoir, tu sais, tu donnes un camion entre les mains de personnes qui n'ont pas les capacités de conduire des camions. Il y a des personnes qui sont mortes sur les routes à cause de personnes qui n'avaient pas les capacités de conduire des camions, qui les conduisaient. Malheureusement, quand c'est toi qui fournis ces permis-là, qui sont fabriqués de façon illégale, t'es indirectement responsable des drames qui peuvent arriver par la suite.
Non, non, t'es pas indirectement responsable, t'es pas mal directement responsable,
oui,
pour moi. Là.
Oh, ben, tu comprends indirectement parlant, ouais, là, mais je comprends aussi ce que tu veux dire. Là, t'as une lourde responsabilité, ben oui. Ça, c'est sûr.
Autre affaire, puis encore là, c'est dans le journal, puis le titre a attiré mon attention, puis c'est en fait. En plein mois de juillet, des urgences débordées comme à Noël. Il y a des urgences dans certaines régions du Québec, là, puis on prend notamment les propos de Dr Marie-Maude Couture, qui est présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec, qui dit « On se sent comme à Noël. Le mois de juillet, d'habitude, c'est super tranquille. Mais là, il y a des hôpitaux à Montréal qui affichent des taux d'occupation de 200%. À Laval, les Laurentides, Montérégie, on est débordés. De ce que je comprends, la région de Québec, on semble bien s'en sortir. Puis ce qui est particulier, c'est que on peut pas nécessairement l'attribuer à une affaire. T'sais, c'est pas nécessairement une grosse vague de grippe. Il y a tout. Il y a des malaises en lien avec la chaleur. Ça doit avoir un certain niveau d'incidence. Oui, il y a des virus, mais t'sais, des accidents de la route aussi. Et il y a pas mal de patients, puis c'est ce qui vient causer les hauts taux d'occupation, qui restent à l'urgence pour 48 heures. Pour plus de 48 heures, on n'est pas capable de faire monter le monde ces étages parce que c'est trop occupé. Puis ça commence à refouler sérieusement. C'est ce que le médecin docteur Gilbert Boucher de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec mentionne au journal. Mais ce qu'on souligne du côté des urgentologues, c'est non, on n'est pas capable de mettre le doigt sur une affaire, sur une cause. Par contre, si on devait le faire, ben on mettrait le doigt sur le manque d'accès d'une clinique médicale. Ce qui fait que les patients finissent par se présenter aux urgences pour des affaires que, si on pouvait avoir accès à d'autres portes d'entrée, ben, on n'aurait pas à passer à l'urgence. Fait que, tu sais, oui, il y a les virus, il y a les coups de chaleur, mais toutes ces affaires-là, des fois, c'est pas urgent. Mais tu finis à l'urgence pareil parce que tu sais pas où aller.
Pis ça se pourrait-tu, ce manque d'accès-là, qui soit expliqué un peu par des congés? Tu sais, veux pas, on arrive en été, probablement des personnes qui travaillent dans ces cliniques-là qui sont en congé. Du monde aussi qui sont malades, qui peut-être, quand on est en pleine année scolaire ou que tu travailles, que tu trouves pas nécessairement le temps d'aller à l'hôpital, que là, ils vont avoir le réflexe de s'y rendre. Mais c'est un phénomène particulier, j'ai envie de te dire.
Bienvenue dans le Point Max. Ah!
Ça va? OK. 11h46 minutes dans le Point Max à Boulevard 102.1.
Mes écouteurs étaient tellement forts.
OK.
Puis c'était un bon riff de musique. Là. Il y avait quelque chose de très... Oh là là! Hey, bon jeudi!
Oui.
Festival d'été de Québec qui commence aujourd'hui.
Vas-tu
être festif?
Oui, moi j'ai hâte. Je m'en vais m'installer quasiment après le show. J'ai quelques trucs à faire à la station. Là.
J'ai hâte de t'écouter. Hier, j'ai dit en ondes quelque chose de super glorifiant pour toi.
Je suis beau, je suis fin.
Non, je suis pas allée là. Ça m'importe très peu. Okay. Je suis allée dans le vif du sujet.
C'est-à-dire?
Je trouve que cette émission spéciale ce soir, c'est exceptionnel. Et je trouve que tu la mérites. Et je trouve que les auditeurs te méritent dans ce contexte-là.
C'est gentil. Pré-show ce soir, 18h, en direct de la terrasse des Trois Brasseurs sur Grande Allée. 1 heure de Limp Bizkit, un petit peu de Cypress Hill aussi, et des petits morceaux d'entrevue avec Cypress Hill, justement. Je vais rencontrer au moins un gars de Cypress Hill là, aux alentours de 17h. Peut-être qu'ils vont tous être là aussi parce qu'ils vont tous vouloir me rencontrer, tu sais. Mais au moins un gars de Cypress Hill en entrevue, fait que je vous présenterai ça.
Fait qu'en plus d'avoir le meilleur animateur, puis d'avoir extraits le meilleur animateur... Regarde, là,
un excellent animateur.
Un très bon animateur, des bons extraits de Cypress Hill, vous allez avoir un excellent metteur en onde aussi.
Ça, c'est toi?
Oui.
Bah,
mon
super
chanceux.
Duo. Mais il faut continuer à s'améliorer. Mais pour vrai, je trouve ça tellement le fun. Moi, une émission spéciale en direct du FEC, c'est sûr que si tu y vas pas, t'aimes pas ça, c'est un peu...
Puis, tu sais, de le faire en studio, ça aurait été cool, tu sais, pour le monde.
Oui.
Mais de le faire en direct de Grande Allée...
C'est extraordinaire.
Vite fait, bien fait, 18h à 19h, du Limp Bizkit, on se prépare, puis on va se rejoindre sur les plaines après.
Et à ta question que tu essayais de me poser en début d'entrée ici...
Vas-tu
là,
être là ce
oui,
soir?
Oui, c'est sûr. Tu le sais que c'est mon genre.
Yes.
Moi, le vieux rock, on est là-dedans. Yeah. Billy Talent, j'ai couru après pendant un an l'année passée. C'est le genre de show que je trouve qu'on est chanceux d'avoir. Limp Bizkit, je suis extrêmement chanceuse. J'ai des passes or et je ne les ai pas vendus. Parce que... Oui, merci à des amis là, qui ont ça, parce que c'est super difficile d'avoir des passeurs. Là. Même si, mettons, tu voulais mettre le budget une année, il y a un droit acquis à travers le temps. Fait que c'est... Puis c'est... Moi, je capote ces passes-là. Tu peux les revendre en ce moment. Là. Unique, là. 400.
Ben oui.
400, 500. Tabarouette qu'il y a du monde qui veut faire de l'argent sur le dos du monde. Mais bon, oui, ce soir, je serai là sur les plaines d'Abraham, mon cher ami. Et Mathias, y seras-tu?
Bien sûr.
Extraordinaire.
Je vais être en avant à me faire brasser.
Ah, oh, j'adore ça.
Yeah.
Dans le général, là, où
oui,
ça va vraiment
tout
fêter
en avant, là,
les
je m'en
vrais
vais me faire
fans.
Brasser en avant.
Je trippe, je trippe.
Pascal,
oui.
On passe aux choses sérieuses.
Et
parce
c'est
que...
cool de le dire.
Puis on parle beaucoup du FEC, puis je le répète, là, tu sais, oui, on mentionnait le FEC, on a mentionné le FEC, évidemment, une couple de fois depuis le début du show, mais on a jasé avec des intervenants de l'actualité aussi, puis c'est ça qu'on va faire tout au long du FEC. Là. Ça va pas être Radio FEC à 100%, là.
Ouais.
On va continuer notre mandat d'actualité. Et c'est ça, Pascal, là, puis je trouve ça intéressant parce que tu nous parles d'un dossier super important, un nom que tout le monde connaît, mais qui est, l'histoire est peut-être loin...
Dans nos têtes, puis aussi pour vous, tu sais, vous êtes un peu plus jeune. Mais si je dis Raif Badawi, il y a une couple de personnes qui se demandent, oh oui, attends un peu là, c'est dans quel contexte que j'ai entendu ce nom-là? C'est sûr que vous l'avez dans votre tête. On retourne en 2012, Raif Badawi, c'est un blogueur, c'est un militant des droits de l'homme saoudien, mais il a été condamné en 2012 à 10 ans de prison, puis surtout à 1000 coups de fouet. Pourquoi? Puis là, vous dites, mais en fait, une affaire terrible, c'est sûr. Non, non. Pour avoir osé, dans un forum de débat en ligne, faire la promotion de la liberté d'expression. C'est un gars qui était ni violent, ni dans l'extrême, ni dans... Il voulait juste la liberté d'expression, puis il trouvait que dans son pays, ben c'est de moins en moins populaire, puis il a osé critiquer ça.
Puis tu sais, juste à la base, quand tu parles d'un pays qui va condamner un individu à des coups de fouet, tu vois qu'on n'est pas nécessairement en 2026 partout dans le monde.
Non, pas du tout. Puis on recule, puis tu sais, on recule en Arabie Saoudite. Là, les femmes, officiellement, depuis quelques semaines, n'ont plus aucun droit. Là. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est un contexte qui est décrié par bien des gens en ce moment. Ce n'est pas une histoire de féminisme, là, c'est vraiment une histoire de droits humains. Ils n'en ont plus. Là. C'est plus rien, les femmes. Puis il y a des photos qui circulent, qui viennent tout le temps pogné un peu à l'intérieur de genre une jeune fille de 11 ans, puis son mari, son fiancé, son futur, tu le vois à côté, puis il a 70, là. Puis je trouve que dans les yeux, on voit beaucoup le caractère de certaines personnes, puis on le voit que les hommes semblent malins dans certains endroits dans le monde, par tous les droits qu'on leur donne, puis la façon dont on leur permet de voir la femme aussi. Mais tout ça pour dire que oui, Raif Badawi, c'est un grand condamné, c'est un symbole mondial de la lutte pour les droits humains. Là, il a été libéré en 2022, parce que si je vous dis 10 ans de prison en 2012, on est rendu en 2022, mais son histoire est encore celle d'une liberté incomplète. Sa famille, ses enfants, sa femme habitent à Sherbrooke, habitent au Québec depuis des années. On les a vus, à Tout le monde en parle. Il milite depuis des années pour ramener Raif Badawi, mais on n'est pas capable d'avoir ces ententes-là. Le gouvernement saoudien est super fermé, donc... Il a purgé sa peine et il a eu ses 1000 coups de fouet. Ça a été administré à coups de 50 coups chaque vendredi sur une place publique devant tout le monde. Une amende aussi
ça a pas de sens.
Saoudienne, qui est, si je le calcule en dollars US, c'est 267 000 US qu'il y a eu à payer. Écoutez, là, ils se sont enrichis sur son dos, puis ils l'ont fait souffrir, puis ils ont essayé de passer un message pour la population. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui, puis je ramène ça? D'abord, c'est qu'il y a un article de Radio-Canada pour la politique fédérale, parce que Carney, Mark Carney, notre président, va rencontrer le premier ministre, va rencontrer le prince héritier saoudien. Puis sa femme, Raif Badawi, a jamais lâché la cause. Son épouse a dit « J'aimerais ça qu'il implore l'héritier saoudien de libérer, de ramener Raif ici en sol canadien. » Donc, l'épouse du blogueur qui demande au premier ministre canadien d'aborder cette question-là des droits de la personne avec le prince héritier Mohamed Ben Salam. Et c'est loin d'être un contexte facile en ce moment. Est-ce que ça va être possible? C'est une bonne question, parce que si on s'en va en Arabie Saoudite pour un tête-à-tête avec le prince héritier, on s'entend-tu que, oui, les droits de la personne, c'est quelque chose d'hyper important à discuter, mais en même temps, si c'est pour des affaires, si c'est pour essayer de rétablir un certain pont, c'est trop sensible.
Non, ça, il le fera pas. La demande est plus que légitime, oui. Puis ça ramène le dossier, puis on en parle, puis bonne nouvelle, mais Mark Carney ira pas là. Dans son contexte en ce moment, c'est des rencontres économique, où il veut créer des liens économiques. Il n'ira pas se tirer une balle dans le pied, malheureusement, avec ça.
C'est là qu'il y a une question importante aussi à se poser, parce que moi, je comprends tous les militants qui disent « Ben voyons donc, pourquoi est-ce que... » Parce qu'il y en a plein de têtes dirigeantes de plein de pays qui sont allées en Arabie Saoudite dans le dernier mois seulement. Là. Il y a comme vraiment un blitz de rencontres pour l'Arabie Saoudite. Mais ça va aussi avec tout ce que je viens de vous énumérer dans les dernières semaines, de tous les droits humains qui sont rendus niettes pour la femme. Il n'y a plus rien pour elle. Puis là, tu te dis, Colin, il y a plein de dirigeants qui y vont. Puis là, leur discussion, eux autres, c'est économique, c'est pour faire des affaires. Parce qu'il y a des grandes richesses, puis on veut avoir quelques alliés aussi au Moyen-Orient et tout ça. C'est où notre limite? C'est complexe, là, en 2026, de dire, la limite humaine, elle est où? Comment est-ce qu'on est en train d'être d'accord avec l'Arabie Saoudite sans le dire de façon non solennelle, parce qu'on décide de faire des partenariats économiques avec eux? Est-ce qu'en 2026, on dissocie ça? On peut-tu dissocier ça? C'est quoi notre positionnement?
Les partenariats avec la Chine aussi, là.
Ah oui, c'est la même chose.
Puis en même temps, on est tous coupables, parce que je connais pas une seule personne dans mon entourage qui va consommer que des biens, disons, éthiques, là. Tu sais, que oui, tout son linge est fait au Québec par... Non, il y a personne qui a rien à se reprocher niveau éthique par rapport à ce qu'on importe d'ailleurs.
Ben non, puis tu sais, c'est des enfants, c'est une femme qui a plus son époux depuis des années, il reste 7 ans, Raif Badawi, à être pris en Arabie Saoudite.
C'est ça, parce que théoriquement, il a le droit de quitter en 2032.
Oui.
Pis là, je dis théoriquement. Théoriquement. Parce qu'après ça, il n'y a rien qui dit qu'ils
ils vont donner le pouvoir de le garder, tu as bien raison. Pis c'est la première visite en 26 ans pour un premier ministre canadien en Arabie Saoudite. Les deux pays sont en dispute diplomatique depuis 2018. Donc, c'est sûr qu'il n'aura pas abordé ça, mais c'est quoi notre bénéfice? Est-tu assez grand pour faire ces alliances-là.
Merci beaucoup, Pascal. On t'écoute ce midi dans On en jase avec Jeff.
Sans faute.
Puis on se voit ce soir.
Sans faute.
18h, show spécial, pré-show Limp Bizkit. En direct des Trois Brasseurs Grande Allée. Allez. Mathias, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
On se voit dans le pit à soir.
Yes, sir.
Jeff s'en vient dans On en jase avec Pascal.
Restez là. Dans quelques instants, on